profit d'associations. Et encore une fois, merci à Jean-Michel, qui vient de loin.
Bon. T'es venu de loin ? T'es venu de loin ? De très loin ?
Oui, mais de Géroubien. Bon, allez, je vais d'abord, là, au prompteur, il y a quelque chose, on va faire comme vous savez, comme les hommes politiques. Hein, semblant vous regarder. Alors moi, je vous regarde, mais c'est écrit là-bas. Alors, d'abord, une première chose, les Kyonautes, oui, c'est une association de professeurs d'histoire-géographie qui s'est constituée au moment où la DSL, au moment où l'Internet est arrivé dans le grand public, en 98. C'est-à-dire que ce sont des jeunes gens, à l'époque, maintenant ils sont vieux, qui se disaient, si on faisait des cours avec l'informatique. Voilà, c'est très simple. Et alors, comme ils avaient aucune... ils avaient peur de rien, ils se sont appelés les Kyonautes. Donc, Clio, c'est la muse de l'histoire, mais Nautes, ça veut dire astronaute. Bon, c'était un peu à la réflexion, je crois qu'il y avait un peu de naïveté, un petit peu d'emballement là-dedans. Enfin bon, le nom est resté, on est quand même 2000 personnes dans tout l'espace francophone. Donc on touche à peu près 3% de la profession d'historien. Et on s'est spécialisé récemment, depuis 5-6 ans, dans la géopolitique, qui est aujourd'hui dans les programmes... de lycée, hein, en première et en terminale. C'est une option, une grosse option qui est que les jeunes peuvent prendre et qui a été installée parce que, effectivement, le monde a changé. Alors, je vais donc prendre une dizaine de minutes pour vous présenter la façon dont les géopoliticiens voient les événements qui se déroulent sous nos yeux et qui sont pour lesquels on a souvent essentiellement. Un regard très très rapide des médias, hein, qui évidemment cherchent la rapidité, mais aussi à faire le buzz, comme on dit aujourd'hui. Hein, ça sera plutôt un temps de réflexion entre nous, je l'espère. Alors, ma conférence sera factuelle, c'est-à-dire que je vais essayer de vous aborder à partir des cartes des faits, mais ces faits sont soumis à interprétation. Je ne prétends absolument pas vous dicter l'interprétation que vous ferez de ces faits. De même que moi, je suis aussi citoyen et je peux très bien avoir mon interprétation des faits. En tout état de cause, elle ne nous intéressera pas aujourd'hui. Hein? Bon, après, si on allait boire un coup, discuter, pourquoi pas. Mais ce n'est pas l'objectif, hein, bien sûr. Alors voilà pour les Kyonautes, cette association. S'il y a de l'argent dans le chapeau, c'est pour, bien sûr, l'association qui me reçoit. Hein? Je tiens à dire. Hein? Je tiens à dire. Hein? Alors, je vous propose qu'est-ce que la géopolitique, une quinzaine de minutes, 10 minutes, je vais essayer, la présentation du conflit par les cartes. Alors, je commence, j'ai mis de 1917 à l'actualité, mais je vais commencer un peu plus avant. Je vais remonter à la fin du 19e siècle, vous verrez pourquoi, il y a une raison, il y avait un choix. Par contre, je ne remonte pas à l'Antiquité. Alors là, pour une question pour une raison très simple, c'est que les historiens, les archéologues travaillent sur le terrain, et cherchent, selon leur envie, en quelque sorte, cherchent des sources qui ne sont pas toujours les mêmes. Et il y a une grosse discussion, une grosse dispute. Je rappellerai simplement qu'en matière de personnages de la Bible, Cantique des Cantiques, par exemple, ce magnifique chant de la Bible, cet hymne à l'amour charnel et spirituel, est attribué à Salomon. Point. Ça s'arrête là. On n'a aucune source, on n'a aucun... Moïse n'est pas cité ailleurs que dans la Bible. Je rappelle que le Christ est cité par un procureur romain alors quand il est crucifié, on sait qu'il a existé. Donc on sait très bien que les sources, à part les textes sacrés, sont difficiles. Hein, c'est compliqué. Je rappelle enfin qu'au Concile de Nicée, à la fin du 4e siècle, Concile de Nicée, qui est un concile religieux très important de la chrétienté, l'Empire romain est devenu chrétien officiellement, on retient 4 évangiles canoniques, donc 4 évangiles, plus l'Apocalypse de Jean, et puis les textes de Paul, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'on fait un choix, il y a un choix qui est fait pour, et qui deviendra un choix canon, c'est-à-dire un choix qui sera considéré comme non négociable jusqu'à une période récente où. Les historiens chrétiens, d'ailleurs, la plupart du temps, ont cherché à comprendre et à revoir ce que pouvaient être d'autres récits qui avaient été laissés de côté, qui pouvaient modifier des choses. Je prends un exemple, on a une évangile de Thomas qui qui parle d'un Jésus qui se marie et qui meurt autour de 60 ans. Alors, donc on est, je crois que pour insister là-dessus, en matière d'explication sur les grandes questions religieuses, on est un petit peu désemparé. Alors, il est plus prudent de laisser ça de côté. Alors, évidemment, je ferai quelques références, mais je pense que ce n'est pas le problème principal, parce que sinon, on va se perdre, effectivement, dans des considérations idéologiques. Or, la géopolitique, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la géopolitique? Je vous propose une définition qui est classique, hein, elle est marquée. Si vous désirez avoir cette conférence, elle est gratuite, elle est libre, de droit. Vous me donnez une clé USB, vous me prêtez une clé USB, je vous la... ou alors un mail, et puis je vous l'envoie. Hein, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de problème si vous la voulez. Alors, une méthode d'analyse qui est claire sur les luttes de pouvoir entre différents acteurs, mais la géographie est en terrain de jeu, c'est-à-dire c'est la question de l'espace, en fait. On a l'exemple parfait avec la Russie et l'Ukraine, je crois que c'est pas, ça se passe de commentaires, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir du conflit. On a là une réalité, tout de suite, on voit bien, hein, que, par exemple, alors je fais un petit mot sur la Russie, parce que je crois que c'est un exemple extraordinaire. Vous avez un pays, donc, qui fait 17,5 millions de kilomètres carrés, 10 fuseaux horaires, un immense pays, qui est aujourd'hui, qui a le sentiment, pour ses élites, et pour une partie de sa population, d'être encerclé. Et si on regarde un planisphère géographique, c'est tout à fait étonnant, parce que comment un pays aussi grand, aussi immense, peut-il être encerclé par des petits pays qui sont autour? Eh bien, c'est là qu'intervient une notion fondamentale en géopolitique, c'est la représentation qu'on se fait de son histoire. Or, pour les Russes, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la glaciation de l'océan Arctique, les fleuves, les grands fleuves russes qui sont gelés, jusqu'à 9 mois à l'année, l'Anena par exemple, le plus grand fleuve russe. Donc c'est-à-dire une situation climatique qui est compliquée et qui a fait que, une fois la question mongole, la question des Tatars, des Mongols résolue à peu près autour du 14e siècle, 15e siècle, quand il n'y a plus cette menace qui vient de l'Est, hein, qui est l'Empire mongol, qui est le plus grand empire qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Et quand cette menace est écartée, la décision des tsars, à partir de l'Ivan Terrible, c'est de se tourner vers l'Europe. Plus ou moins. Alors, on sait que Pierre le Grand construit une capitale après avoir été visiter la France, l'Angleterre, l'Espagne, avoir discuté avec le jeune Louis XIV, l'avoir pris dans ses bras, il faisait 2 mètres. Hein, Louis XIV, c'est une des rares fois où il s'est fait soulever comme ça. Il a dû s'en souvenir. Et évidemment, il crée une capitale européenne. Il demande à un de ses géographes de lui trouver une frontière pour dire « l'Europe, elle s'arrête derrière nous. » On trouve l'Oural, qui est une petite montagne de rien du tout, je signale, hein, qui se franchit les Pyrénées, c'est pas les Pyrénées. Et donc, on se retrouve avec un État qui subitement devient européen et qui se construit une culture européenne à travers la musique, etc. Bon, toutes choses que l'on connaît, hein, bien sûr. Mais ce qu'il faut voir après, c'est qu'il y a une obsession. C'est les mers chaudes, c'est sortir de cet isolement, de cet enclavement, à tort ou à raison, encore une fois, hein, qui est constitutif de l'histoire russe. Et donc, on va chercher à sortir. Alors, c'est l'Afghanistan 79, c'est le Caucase avec le grand jeu contre les Britanniques à la fin du 18e siècle. C'est également, bien entendu, l'Ukraine et surtout le littoral de la mer Noire.
Avoir un port.
Ah, mais bien entendu. Alors, et pas seulement un port, puisqu'il y en a un déjà, puis il y en a maintenant plusieurs. Il y en aura d'autres, si ça continue comme ça. Donc, on voit bien. Et puis, la Syrie. Vous avez l'explication pourquoi Poutine a choisi de soutenir Bachar el-Assad, qui était en grand danger de disparaître, tout simplement parce que le seul port que les Russes possèdent en Méditerranée se trouve à côté de la ville d'Assad, d'attaquer, qui est le port de Tartous. Et donc, c'est considéré comme étant vital. C'est tellement vital qu'on est capable de massacrer des populations entières, parce que c'est vital et existentiel. Donc, si on adopte le point de vue, si on comprend le point de vue russe, ça ne veut pas dire qu'on l'excuse ou qu'on l'accepte, ça veut dire simplement qu'on comprend pourquoi on va agir comme ça. Alors, l'objectif, ça va être un petit peu de faire la même chose pour, évidemment, les Palestiniens et les Israéliens. Je ne vous cache pas que ça va être encore plus compliqué. Alors, je rappelle que faire de la géopolitique, c'est aussi s'intéresser à d'autres, c'est avoir une vision globale de ce qu'on appelle les sciences sociales, parce que c'est très difficile de se passer de l'histoire, c'est très difficile de se passer de la sociologie, on vient d'en parler, c'est comment les gens se représentent, en quelque sorte, dans une société, et quelles sont les valeurs qui leur sont importantes. Je suis toujours surpris quand j'entends les commentateurs, bon, j'ai fait une conférence aussi sur l'Ukraine, mais pratiquement personne ne parle d'une raison profonde de l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. C'est le fait qu'il y a en Ukraine 47 millions d'Ukrainiens qui sont des chrétiens blancs, alors qu'il y a des poussées musulmanes très importantes dans l'est du côté du Caucase, pour les publics russes, mais aussi en Asie centrale, où vous avez en gros les populations qui correspondent aux maghrébins européens. Et évidemment, alors il y a une peur, justifiée ou non, d'une certaine façon, d'une invasion musulmane. Il ne faut pas oublier que l'histoire russe, c'est jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'à Ivan Terrible, c'est la Horde d'Or qui dirige Moscou. Tout ça, ça pèse très lourd, si vous voulez, hein, dans les mentalités, dans la façon de voir les choses. Et donc, une des raisons du contrôle de l'Ukraine, c'est de récupérer des blancs. Excuse du terme, hein. Mais des chrétiens, des blancs, vous dites comme vous voulez, c'est-à-dire des gens comme eux. Parce que la Russie, c'était 140 millions de l'URSS, 110 millions aujourd'hui, vous avez 30 millions de russophones qui sont dans les autres pays qui sont indépendants. Pays baltes, Lituanie, Lettonie surtout, Ukraine, bien entendu. Hein, il y a beaucoup de russophones en Ukraine, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est la langue qui était dominante, c'est pas l'ukrainien. Et ça ne veut pas dire que quand vous êtes russophone, vous êtes pro-russe. Attention, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire la même chose. Mais voyez, et puis vous avez par exemple un pays comme le Kazakhstan, vous avez 20% de la population qui est russe, qui est d'origine russe. J'ai des amis au Kazakhstan, des ingénieurs qui sont une famille russe et qui sont allés s'installer au Kazakhstan pour le passeport kazakhstanais. Donc, voyez les enjeux. Cette question de représentation est absolument fondamentale. Il faut la comprendre. Alors, encore une fois, non pas pour excuser, pour être d'accord, mais pour comprendre pourquoi on a telle ou telle position qui peut conduire jusqu'au conflit, qui peut aller jusqu'au conflit. Rappel, la géographie, c'est l'espace, c'est le territoire. Si Catherine II veut aller sur le Caucase ou veut aller en mer Noire, ça veut dire qu'elle marche sur quelqu'un. Ça veut dire qu'elle marche sur d'autres peuples. Et qu'il va y avoir conflit, forcément. Le conflit se fait avec les Turcs et puis... l'intervention des Britanniques et des Français à la fin du 19e siècle. Donc on est dans cette logique-là. Voilà pour ce que je voulais vous expliquer pour la géopolitique, bien sûr. Alors, juste quelques petits repères. C'est un mot qui apparaît autour de 1889. Hein. C'est un Suédois, je vois un Suédois qui l'utilise. Et puis la géopolitique va se diffuser notamment à partir de l'armée prussienne qui met en place ce qu'on appelle les Kriegsspiel, War Games en anglais, jeux de guerre en français, qui sont des jeux de plateau sur lesquels les officiers prussiens vont s'entraîner à la stratégie et à l'art opératoire. Donc on fait un plateau, on convoque un certain nombre d'officiers et on étudie comment on peut gagner une bataille. Donc ça commence avec ça, et évidemment les nazis vont l'utiliser à plein. Et donc, après la guerre, il y a une sorte de désaffection de la géopolitique, parce que c'est considéré comme une science nazie. Une science violente, etc. Une science de la guerre, ce qui est assez logique finalement au départ. Et puis les Américains vont reprendre le concept, vont s'y intéresser fortement. Pourquoi ? Parce que l'Amérique se considère comme étant une terre de mission. C'est un pays universaliste, un peu comme la France, un peu comme les Romains autrefois. C'est des pays qui pensent que leur modèle, à tort ou à raison, leur modèle est un modèle universel. Et que ce modèle peut être accepté, confié aux autres peuples. Je rappelle toujours une anecdote simple. En 1944, quand les GI américains débarquent à Omaha Beach, ils ont dans leur backpack, dans leur sac à dos, ils ont... des tablettes de chocolat, du chewing-gum, des baninons. Hein? Et ça, si c'est pas du soft power, vous m'expliquez. Hein? On est bien en présence de gens qui pensent qu'on va gagner une guerre, c'est une première chose, mais dans la deuxième étape, il s'agit de convaincre, de subjuguer les populations qu'on va libérer. leur faire comprendre que non seulement on les libère, mais en plus on est un bon exemple à suivre. Donc on a des choses comme ça, hein, voyez, qu'on appelle le soft power. Ça, c'est les Américains. Les Américains se pensent comme un pays entouré par la mer, et ils font une comparaison avec Athènes. Au 5e siècle, les Athéniens réussissent à empêcher la Perse de passer, grâce à deux victoires absolument extraordinaires, qui sont étudiées, je vous signale, en école de guerre, hein, Marathon et Salamine, à 10 ans d'écart, des batailles qui sont tout à fait géniales. Et les Athéniens profitent pour dominer le monde grec, les cités grecques qui sont séparées, et installent un système dans lequel ils sont dominants. Et ils se considèrent comme ce qu'on appelle une thalassocratie, c'est-à-dire un thalassa en grec, ça veut dire la mer, et ils se considèrent comme une puissance maritime. Alors qu'ils ont comme adversaire les Spartiates, qui sont une cité qui est continentale, qui se base sur la terre, et donc il y aura une opposition entre ces deux cités. Et dans l'esprit des Américains, notamment avec la guerre froide qui commence dès les années 46-47, très rapidement, la thalassocratie, c'est eux. Et l'ennemi, c'est la Russie, c'est l'URSS, bien entendu, l'URSS qui est enclavée, alors que nous, on est évidemment, on est ouvert. Et puis la Russie soviétique, c'est un système fermé, dans lequel on a conquis des pays, on a conquis des pays qui étaient à côté, avec un système économique fermé. On est donc dans deux oppositions de style qui s'inspirent donc de la Grèce antique. Je rappelle qu'une des grandes questions qui est posée aujourd'hui en géopolitique, c'est le fameux piège de Thucydide. Ça s'appelle comme ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des fois on entend parler dans le grand public. Thucydide, c'est un historien qui vit à l'époque de Périclès, à l'époque de l'hégémonie d'Athènes et de la lutte avec Sparte, et qui explique que finalement Athènes a cru trop facilement gagner un conflit contre une cité de plus et qu'en fait ils ont perdu la guerre. Et c'est le piège. Or, on en entend parler par rapport à la Chine aujourd'hui. Les Américains se posent beaucoup de questions pour savoir si en cas de conflit, par exemple à Taïwan avec la Chine, ça ne serait pas un piège pour eux. Et est-ce qu'il faut intervenir ou est-ce qu'il ne faut pas intervenir? Vous voyez, le genre de choses. Donc l'histoire sert à éclairer en quelque sorte le présent, mais jusqu'à un certain point. Il ne faut pas trop penser que les exemples d'avant vont servir à comprendre le présent et surtout le futur immédiat. Voilà. Est-ce que vous voulez poser quelques questions, intervenir? Je souhaite que vous interveniez tout de suite et pas à la fin. Si vous avez des choses à demander, des explications, etc.
Mais en fait, c'est le même problème qui se régénère maintenant avec Israël et l'Iran qui rentrent dans le jeu, et puis la Palestine. C'est un peu encore le même procédé qui se renouvelle maintenant.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que je vous fais une introduction qui ne rentre pas dans notre sujet, si je puis dire, c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose de global dans cette affaire. Donc on va retrouver les mêmes types de compréhension jusqu'à un certain point, puisque, effectivement, on est dans des conflits. Par exemple, on peut penser que le conflit ukrainien, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui fasse que les Russes... mais je crois que c'est mal parti, puisque je crois que le Congrès américain a voté une aide. Mais au cas où, on aurait pu penser que les choses se seraient passées très vite. Or, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un conflit gelé. On va s'installer dans un énième conflit gelé, dans lequel il n'y aura pas des frontières. Oui, encore que le Vietnam, on peut considérer aujourd'hui que le Vietnam est un pays qui a une réalité, qui n'est pas qu'une réalité communiste. Hein, puisque je rappelle que le premier problème du Vietnam, c'est la Chine, c'est pas les États-Unis. Si vous allez à Hanoï un jour, ben, vous rencontrerez tout un tas de grands Américains avec des petites Vietnamiennes. Hein, ça, c'est tout à fait étonnant. Hanoï, c'est quand même le Nord. Hein. C'est pas Saigon, etc. Et voilà. Donc là, dans ce cas-là, on peut dire, par contre, on peut parler, par exemple, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Voilà. Donc on a comme ça des conflits qui ne se résolvent pas.
Disons, ils ne résolvent pas.
Peut-être bien. On va voir. On va en reparler. Alors, juste un petit point cocorico. Un certain, c'est pas les chemises Lacoste, c'est Yves Lacoste. C'est pas la même famille. Hein. C'est un géographe français qui a réhabilité la géopolitique en 78 en disant, mais la géographie, c'est pas seulement un territoire à décrire, ça sert à faire la guerre. Et pourquoi il dit ça? Il la cause parce qu'en 78, c'est la guerre du Vietnam. C'est la fin de la guerre du Vietnam. Et il se dit, il a assisté en tant que jeune géographe, il a fait une thèse sur la péninsule indochinoise. Il a donc assisté à ça. Il a vu les Vietnamiens, petit peuple pauvre, démunis, battre la plus grande puissance militaire mondiale. Donc effectivement, ça a rebattu les cartes d'une certaine façon. Hein. Bien sûr. On sait aujourd'hui, d'ailleurs je terminerai là-dessus, on sait aujourd'hui que les conflits deviennent asymétriques, c'est-à-dire qu'on a souvent des conflits entre des groupes, des États qui ont une certaine légitimité, une certaine puissance,
oui.
Et des groupes qui sont des groupes informels, qui apparemment n'apparaissent pas comme étant dangereux sur le plan de leur force, et qui causent des dégâts. On pense bien entendu aux groupes djihadistes, par exemple. Voilà. Et donc là, on voit bien que... Et je pense à un géopoliticien que j'aime bien, qui s'appelle Bertrand Badi, qui dit, mais depuis 1945, citez-moi un conflit qui a été gagné par une grande puissance. Et là, effectivement, on peut se poser la question. Alors, bon, l'hégémonie américaine, vous le savez, hein, les Romains, ils se prenaient pour les Romains de l'époque, hein, ça n'a pas marché, ça a duré 10 ans. Hein. 11 septembre 2001, ce sont les tours jumelles du World Trade Center qui disparaissent, attaquées avec une attaque djihadiste qui n'était absolument pas prévue, que personne n'avait prévu, que les services secrets américains n'avaient pas prévu du tout, etc. Donc là, on peut dire que c'est terminé, quoi. L'idée qu'on aurait une paix américaine qui régirait le monde, c'est fini. Bon, retour de la Chine. Montée de la Chine, en 20 ans, 78-98, la Chine réussit un développement fantastique. Retour de la Russie, qui n'a pas accepté finalement d'être marginalisée. Et puis l'apparition d'acteurs régionaux comme l'Iran chiite, qui réclame, qui dit voilà, on existe, on est une grande puissance. Bon, les mollahs, on peut en penser ce qu'on en veut, mais l'Iran est un pays de civilisation multimillénaire. Grande civilisation, et on a fêté d'ailleurs le nouvel an perse cette année. C'était très étonnant parce que il est interdit officiellement en Iran et il a été fêté dans plein de régions en Iran sans que la police n'intervienne, parce qu'on sent que quand même il y a quelque chose. N'oublions pas que les Iraniens ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses. C'est pas la même culture du tout. Hein. Donc voilà, et ce sont des pays qui disent nous on veut notre place. Bon, la Corée du Nord, je crois que...
Et chapeau aux femmes de là-bas, monsieur.
Merci de penser à elle, oui, je crois que hein, c'est vraiment impressionnant. Oui. Bon, on va arriver bien sûr au conflit israélo-arabe, c'est celui que vous attendez. Alors, je crois que, en ce qui concerne le conflit israélo-arabe, on laisse de côté l'Antiquité, on y fera référence de temps en temps, mais on va essayer de comprendre dans quelles conditions il y a eu création d'un État israélien et non-création de deux États, israélien-palestinien. Alors, je vais vous proposer les cartes. Si vous voulez intervenir, surtout ne vous gênez pas, hein, si je suis trop compliqué, si je dis trop de choses à la fois, parce que c'est un peu le problème, des fois. Ça va ?
Bon, c'est gros, hein.
Je peux continuer. Bon, alors, je vous propose une carte... Pour commencer, est-ce que vous la voyez assez ou pas? Voilà. Alors, je vais zoomer, parce que c'est ça l'avantage.
Voilà, c'est bon.
Voilà. Alors, pourquoi je vous présente cette carte? C'est parce que je l'ai rajoutée, parce que je dis que c'est quand même important. C'est comprendre le climat de la région et l'incidence sur la culture. Je sais pas si vous voyez bien, je peux pas vous le montrer. J'ai pas de pointeur. S'il y a un pointeur, non? Bon. On voit que Israël est situé dans le jaune, c'est le climat méditerranéen. Israël, Liban, toute la partie ouest de la Syrie, c'est le climat méditerranéen. Ça déborde sur la Jordanie, qui est à côté d'Israël. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que le climat méditerranéen, qu'est-ce que c'est? C'est un climat qui est chaud. On dit qu'il est chaud.
Ah, bravo. Merci, monsieur. Mais... Oh, ben, merci, Faustino. Yeah.
Alors, c'est là. Voilà. Alors ici, vous avez Israël, ici, vous avez le Liban, ici, vous avez la Syrie, et ici, vous avez la Jordanie. Donc, climat tempéré méditerranéen. Tempéré, ça veut dire 4 saisons. 4 saisons, donc un été chaud, sec, évidemment, très aride, mais des saisons intermédiaires qui peuvent être pluvieuses. En général, la période d'avril, c'est une période où il peut pleuvoir en Méditerranée. Hein. Donc on n'est pas dans un climat désertique. Ça, c'est quand même important à comprendre. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver dans une région où la question de la culture, la question de... va se poser. Or, quand les colons, les premiers colons qui arrivent dans les années 1880 pour acheter des terres en Palestine, achètent des terres pour cultiver, les terres sont achetées, les Arabes palestiniens vendent des terres, mais ils ne les cultivent pas. Pourquoi ? Parce que leur tradition culturelle, c'est d'être des Bédouins. De vivre avec des troupeaux, de vivre avec du commerce, avec des routes commerciales importantes, hein. Un petit peu à l'instar du prophète, hein, qui lui était caravanier et utilisait les routes commerciales de l'époque. Hein. Donc il y a une tradition bédouine, en quelque sorte, qu'on va retrouver d'ailleurs dans le golfe Persique, dans le, ce qu'on appelle le Moyen-Orient, hein, qu'on retrouve par exemple aujourd'hui au Qatar. Quand il y a eu la Coupe du Monde au Qatar, par exemple, il y a eu un reportage sur le Qatar, parce que le Qatar est un pays très controversé, mais très intéressant. Il ne faut pas oublier que c'est un petit pays, tout petit, qui doit faire face à des voisins très importants. C'est un peu la Suisse du coin. Et s'il veut survivre, bah, il faut qu'il s'arrange avec les voisins. Hein. Et donc, on est dans des pays très, très surprenants pour nous. Or, par exemple, il y a eu une loi, il y a un décret-loi au Qatar, après la Coupe du Monde, qui a autorisé les Qataris à aller dans le désert pendant plusieurs mois, sous des tentes climatisées, évidemment, qui sont bien adaptées, mais pour vivre la vie de Bédouin, parce que ça fait partie de leur identité. Et c'était une réclamation qui était très forte de la part des Qataris. Et donc, ils ont été autorisés parce que, bon, évidemment, la modernisation, etc., ça veut dire, bon, on ne se comporte plus comme autrefois, on évolue, etc. Donc là, c'est un petit truc qui est assez marrant, parce que ça montre bien que le poids du civilisationnel dans les comportements des gens, hein, que ce soit pour la France, que ce soit pour le Royaume-Uni, la Russie, etc., on est tous marqués par notre civilisation, auquel on a un attachement profond. Alors, donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais passer aux cartes en tant que telles. Allez, voilà, on va y arriver. Alors, voilà, ici, juste une image, on en a très peu, une image du littoral palestinien. La photographie est inventée autour de 1860, hein, faut pas non plus s'attendre à ce qu'on en ait beaucoup. Et là, on a un paysage typique méditerranéen qu'on peut retrouver dans le sud de la France, hein. Montagneux, avec un littoral très peu de plages, etc. Voilà ce qu'on a comme réalité à l'époque, et on en a très peu. Hein. On a très peu de photos, très peu d'informations. Alors, première carte, ce que je voulais vous montrer, c'est la carte qui déclenche tout, en quelque sorte, c'est la carte originelle. Alors, ça se passe en 1880. C'est la Palestine avant la création de l'État d'Israël. Alors, avant l'État d'Israël, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'on a l'Empire ottoman. Je vous dérange peut-être ? Excusez-moi. On a l'Empire ottoman, c'est-à-dire, c'est les Turcs qui sont... à la tête, depuis le XIIIe siècle, qui sont à la tête de l'immense espace arabo-musulman, qui va jusqu'au Maroc, et en gros jusqu'à l'Indus, côté Inde. Donc, les Turcs sont maîtres de cet empire, ils l'administrent de façon assez lâche, avec soit des vilayats, on appelle ça, ce sont des provinces, si vous voulez, dans lesquelles, qui sont dirigées par des Turcs, ou des gens qui sont... nommés par eux, qui sont leurs affidés, comme on dit, leurs obligés locaux, ou des royaumes. Alors, par exemple, l'Égypte. L'Égypte est un royaume. Enfin, alors, on ne dit pas royaume parce qu'on est dans le monde musulman, ce sont des émirs. On a le cas aussi du Maroc. Donc, on a un certain nombre de territoires qui sont assez autonomes et qui ont une histoire, je dirais, une histoire longue. Je prends l'exemple de l'Égypte et du Maroc parce que c'est les plus connus. Il y en a d'autres. Hein. Il y a également, on verra, la Transjordanie qui est juste à côté, qui est l'espace qui est situé à côté, donc à l'est du Jourdain. Vous savez, le Jourdain, la rivière, la mer Morte, le lac de Tibériade. Et donc, vous avez ce qu'on appelle la Transjordanie, qui est tenue par une famille qui s'appelle le roi Hussein de Jordanie. C'est les chérifiens qu'on dit, c'est la famille, c'est les chérifiens, parce qu'ils ont normalement, ils ont le pouvoir sur la Mecque. C'est eux qui s'occupent des pèlerinages. Et donc, ils ont un statut jusqu'en 1925 qui s'occupe des pèlerinages, jusqu'à ce que ce soit l'Arabie Saoudite qui s'en occupe. Donc, on a des territoires qui sont l'Empire ottoman. Il n'y a pas de Palestine en tant qu'État. Ça n'existe pas. Il y a des tribus qui sont installées là depuis le 6e siècle, depuis très longtemps, mais qui n'ont pas de statut particulier, qui parlent un arabe dialectal, comme dans toute la région. Hein, c'est-à-dire, il y a des variations, hein, parce que vous avez un immense empire. Et puis, à partir de 1880, il se passe un phénomène, un retour des pogroms, c'est-à-dire des violences contre les juifs européens. Alors pourquoi ? Je suis obligé de vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais essayer de faire simple, n'hésitez pas à me contredire ou m'arrêter. Dans les années 1880, il y a un retour de l'idée d'aller en terre promise chez des juifs européens. Alors ça a toujours existé, il faut le savoir. C'était porté par les rabbins, qui, le rabbinisme par exemple, qui expliquait, bah oui, on va avoir le Messie qui va revenir et on retournera à Sion, en terre promise, à Jérusalem, etc. Donc il y a des mouvements comme ça qui sont des mouvements religieux, qui ne débouchent sur rien, bien entendu, mais qui transmettent la mémoire du peuple juif et du retour en Israël. Et puis, dans les années 80, en Europe, suite à la Révolution française, grand tremblement de terre, la Révolution française en Europe, s'installent des nationalités, l'Allemagne, les Allemands, les Italiens, etc., et souvent des nationalités qui n'ont pas d'État, et qui donc vont chercher à se construire un État avec des frontières, une capitale, des lois, etc., encore une fois, dans des lieux où il y a déjà du monde. Mais c'est pas simple à faire. On a des États qui se constituent et les Juifs apparaissent comme étant étrangers au sentiment national. C'est-à-dire qu'on va avoir des réactions, notamment dans l'Empire russe, on a des réactions violentes contre des communautés juives qui sont installées depuis très longtemps. Elles sont arrivées en général après avoir été chassées d'Espagne. Ça remonte à très loin. Ils sont installés depuis longtemps, ils ont une légitimité, j'allais dire, on les a fait venir, attention. Le roi de Pologne, notamment, a fait venir des milliers de colons juifs pour cultiver les terres, donc ils avaient leur village, etc. Et on va commencer à voir un retour de l'anti-judaïsme chrétien, vous savez, celui qui disait que les juifs avaient tué Jésus, qu'il était responsable, etc. Comme, bon. Voilà, malheureusement, encore une représentation qui était extrêmement violente. Et donc, on a des pogroms. Et donc, on a des migrations. Et cette émigration, cette carte, on vous en montre un certain nombre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, première alia, 1880-1890, surtout en provenance de Russie et du Yémen. Alors, je m'excuse pour le Yémen, je n'ai pas d'explication. Donc, je ne vous en donnerai pas. Mais la Russie, par contre, c'est très clair. C'est-à-dire, dans l'Empire russe, on a des pogroms qui font que les communautés juives vont partir, vont s'organiser pour partir en Israël. Et donc on va créer des foyers juifs en Israël. C'est ce que vous avez en jaune sur la carte. Alors le vert, ce serait donc le monde arabo-musulman. Là, on est la Turquie, c'est plus haut. Hein. Et le jaune, ce serait des colonies. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous avez des villes en jaune, vous voyez, Haïfa, Acre, par exemple, si je prends la première flèche, dans la région de la Galilée, jusqu'au lac de Tibériade, ce sont des villes arabes, mais qui comportent de fortes minorités juives. Déjà avant. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand le temple est détruit en 79 par les Romains, on dit qu'il y a la diaspora, les juifs s'en vont, etc. Non. Il y a des juifs qui s'en vont, puis il y a des juifs qui restent. Comme toujours, c'est les plus pauvres qui restent, les plus riches qui s'en vont. C'est toujours le même phénomène dans l'immigration. Hein. Donc ils partent. Et certains sont restés. Il y a toujours eu des minorités juives. Or, dans l'Empire arabo-musulman et dans l'Empire ottoman-turc, la règle, c'est d'accepter les religions du livre. C'est-à-dire que les juifs ou les chrétiens ne sont pas persécutés dans le monde arabo-musulman. Ils sont plus que tolérés, ils payent l'impôt, bien sûr, le zakat, mais ils sont acceptés. Alors évidemment, c'est des citoyens de seconde zone, mais ils ne sont pas persécutés, par exemple. La question des pogroms ne se pose pas dans le monde arabo-musulman. Bien mieux, quand par exemple les juifs espagnols sont chassés d'Espagne en 1492, ils se réfugient la plupart du temps. Alors, il y a une partie qui monte vers la France et qui va aller vers le Rhin et la Pologne. On pensera à Montaigne, hein, par exemple, qui est issu d'une famille, qui a une partie de sa famille qui était issue de cette immigration. Et puis, vous en avez beaucoup qui vont vers le pourtour méditerranéen, qui vont aller dans l'Empire arabo-musulman, où ils sont reçus sans problème, parce qu'ils ont des compétences, comme toujours avec les gens qui sont persécutés et chassés, bah, ils ont des compétences qui, finalement, sont intéressantes pour les pays qui les reçoivent. Je vous rappelle que c'est des protestants français qui ont créé la ville de Berlin. La ville de Berlin, hein, qui était plusieurs villages les uns côté des autres. Hein, à Berlin, la présence française, elle est présente dans les rues, elle est présente dans plein d'endroits, hein, c'est rappelé. Donc ça a été dans les noms aussi, hein, il y avait beaucoup de noms français. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Donc ils se sont installés. Or, ils se sont installés, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, j'insiste là-dessus, ils se sont installés, ils ont acheté des terres. Alors il y a le rôle du baron Rothschild qui est très connu, Lord Rothschild, qui est un aristocrate britannique, qui décide de mettre une partie de sa fortune au service des immigrants pour qu'ils puissent acheter des terres. Ce qui se passe sans problème. On a des photos, on a des documents sur l'achat de terres dans les années 1880-90, ça ne pose aucun problème. Les tribus arabes vendent des terres, qui sont en général des terres non fertiles, hein, qui ne cultivent pas, aux colons qui vont cultiver les terres. C'est pour ça que je vous ai montré une carte du climat, parce que justement, c'est le problème. On a là une opposition culturelle qui va se faire très vite entre ceux qui cultivent et ceux qui ne cultivent pas. Les terres sont donc achetées. Alors, vous voyez, vous avez des endroits. Alors, vous avez aussi la création d'une ville, Tel Aviv, qui est créée ex nihilo, comme ville. C'est la seule ville juive, de fait, au départ. Les autres étant des villes dans lesquelles se trouvent des minorités juives. Alors, vous voyez, Beyrouth, Amman, qui sont à l'extérieur, là, la question ne se pose pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ça continue. Deuxième alia, c'est 1903-1914, sa provenance de la Russie, 30 à 40 000 migrants. Parce que ça, c'est lié aux mouvements nationaux qui agitent les empires au milieu du 19e siècle, qui agitent les empires, qui sont des empires multiculturels dans lesquels des minorités veulent leur État. On pensera bien sûr aux Polonais. Mais il n'y a pas que les Polonais, il y a les Roumains, il y a les Balkans, etc. Il y a les Grecs, bien sûr. Là, c'est pour l'Empire ottoman. Troisième alia, bon, en provenance de la Russie, ça continue après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, pourquoi ? Parce que l'Empire russe disparaît. L'Empire ottoman disparaît. C'est les vaincus de la guerre. L'Empire allemand disparaît. L'Empire austro-hongrois disparaît. Or, les minorités qui sont à l'intérieur de ces empires réclament légitimement leur État et l'obtiennent. Au traité de Versailles, c'est les points de Wilson, l'Américain Wilson, qui dit bon ben, il faut donner des droits au peuple. Donc tout ça est bien joli, mais les Juifs sont oubliés. Sont-ils une nationalité ? Sont-ils un peuple ? Etc. C'est des questions qui sont compliquées. Il y a un événement qui se passe en 1905. Qui est, à mon avis, un événement absolument fondamental. C'est la dégradation du capitaine Dreyfus. En 1904, ou 5, je m'excuse, parce que moi, j'ai beau être prof, alors été prof historien, je suis nul pour les dates. J'ai un problème de... J'ai un problème. Alors, 1904-1905, j'ai un trou. Bon, en tout cas, le capitaine Dreyfus est dégradé à l'école de guerre aux Invalides, dans la cour des Invalides. Or, assiste à cette dégradation un journaliste autrichien qui s'appelle Theodor Herzl. Et Theodor Herzl, c'est une grande famille bourgeoise juive de Vienne, assimilée, laïque, non-croyante, et qui fait partie de ces juifs européens, centre-européens, ouest-européens, qui vont être assimilés. Comme ce qui se passe en Angleterre, comme ce qui s'est passé depuis la France de Napoléon, hein, qui donne
qui est le premier pays à donner des noms et un état civil aux populations juives. Et Herzl assiste absolument, il vient faire un compte rendu, il est envoyé par son journal, il assiste abasourdi à la dégradation de Dreyfus et aux violences verbales contre Dreyfus dans la cour des Invalides. Il rentre à Vienne, il écrit un article dans le journal, puis il se dit « Non, c'est pas possible, je ne peux pas me contenter d'écrire un article dans le journal, il faut absolument que je prévienne, que j'ai quelque chose à dire là-dessus. » Et il développe l'idée du sionisme. Sion, Zion, Sion, c'est dans la Bible, hein, c'est le retour à la terre promise. Donc, il développe l'idée du sionisme, l'idée que si on est juif assimilé comme Dreyfus et qu'on se retrouve victime d'un procès injuste parce qu'on est juif, où est-ce qu'on est tranquille ? Voilà, ça c'est la racine du sionisme. Et ça rencontre la question du nationalisme en Europe. Et donc là, ça va vraiment être un moment où qui va expliquer cette persistance de l'alia, c'est-à-dire de l'émigration vers la terre promise. Quatrième alia, cinquième alia, bien sûr, c'est l'arrivée des nazis en Europe. D'abord en Allemagne, puis en Autriche, puis évidemment dans toute l'Europe centrale et occidentale, et puis évidemment la Seconde Guerre mondiale. Résultat des courses, parce que c'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'on va avoir une population importante qui va arriver, juive, qui va arriver par étapes successives dans un territoire qui est un territoire qui est dominé, bien entendu, par des tribus arabes. Je parle de la démographie, là. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que
Ce sont oui les Anglais qui ont...
Et Jérusalem, non, tout ça.
Alors, Jérusalem, c'est une ville arabe. Pourquoi ? Parce que c'est une ville arabe pour deux raisons. D'abord, la conquête au 7e siècle, la conquête arabo-musulmane s'empare, les conquérants s'emparent de Jérusalem. Il y a une conquête ultra rapide, hein. Une conquête ultra rapide qui s'explique par le fait que, vous savez, il n'y a pas de miracle dans la guerre, d'où vient une conquête ultra rapide ? C'est parce qu'en fait, les musulmans étaient sexy, je veux dire, en gros. Ils étaient mieux que les autres. Ils étaient mieux que les Byzantins, ils étaient mieux que les autres. Et ils étaient d'ailleurs, ils annonçaient qu'ils laisseraient les gens faire leur business, leur religion, etc. Donc ça n'a pas dérangé beaucoup de peuples. Ça a permis une conquête rapide. Il y a eu quelques exceptions, très curieusement, peut-être là où c'était dur, c'était par exemple contre les Berbères, au Maroc. Ou en Égypte. Il y a dans des endroits où il y avait des civilisations bien installées qui n'avaient pas trop l'intention de se laisser embarquer. Mais ça s'est passé assez facilement. Premier point. Deuxième point, très important, Jérusalem, qui n'est pas cité dans le Coran, on l'appelle Al-Qod, c'est la destination lointaine, ça veut dire en arabe, c'est la troisième ville, c'est considéré par le monde musulman comme la troisième cité sainte. Après la Mecque, Médine, c'est Jérusalem. Parce que le prophète, l'ange Gabriel, dans le désert, on a la même configuration qu'avec le Christ, hein, d'une certaine façon. Hein. Quand il dit à Mohammed, parle au nom de ton Seigneur qui a tout créé, et que Mohammed dit, mais je ne sais pas lire, il dit maintenant au nom de ton Seigneur qui a tout créé, et il l'emmène dans ses ailes, c'est raconté comme ça dans le Coran, il l'emmène dans ses ailes et le transporte à Jérusalem, un lieu qui serait Jérusalem. On ne sait pas. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Quand Omar, le calife qui succède au compagnon de Mohammed, qui fait la conquête de Damas et la conquête de Jérusalem, il fait construire le Dôme du Rocher. Au-dessus, les ruines du temple de Jérusalem, détruites par les Romains en 79. Les ruines du temple, au-dessus, on fait la mosquée du Rocher, qui est la première mosquée. Et donc, pour les musulmans, pour répondre à ta question, les musulmans, Jérusalem, c'est sérieux, quoi. C'est une ville arabe. Aujourd'hui, on dit que c'est une ville trois fois sainte, mais à l'époque, c'est une ville arabe. Ça redevient une ville israélienne en 67, lors de la guerre des six jours. C'est un petit peu une ville chrétienne.
Pardon. Vous voulez dire ?
Ça va ?
Merci. Si, excusez-moi, madame parlait justement du rôle des Britanniques quand même, qui était important à
oui
partir de cette période.
Alors, bien sûr, puisqu'on vient de parler, j'ai parlé de Lord Rothschild, qui est un personnage très important en Angleterre, qui a ses entrées au gouvernement, hein, bien sûr, et qui donc considère que pousse pour l'installation de foyers juifs, et ça va être pris en 1917 par Lord Balfour, qui est le ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté, et qui va donc accéder à la demande de Rothschild de la création d'un foyer juif. Alors là, on ne parle plus d'un foyer juif, mais ça parle d'une installation de colons, settlement, mais on parle d'un État. La première fois qu'on entend parler d'un État, c'est la déclaration de Balfour de 1917. Effectivement, donc là, les Britanniques ont joué un rôle moteur. Ben, justement, on va voir tout de suite une carte qui, justement, on revient là-dessus. Le Proche-Orient pendant les deux guerres, pendant l'entre-deux-guerres, excusez-moi, je vais essayer de vous montrer. Alors, ici, vous avez donc la fameuse ligne Sykes-Picot. Alors, je vais essayer de vous la montrer, voilà. Du bleu, du vert. Alors, le bleu, c'est le mandat français. Le vert, clair, c'est le mandat britannique. Alors, de quoi s'agit-il? On est après la Seconde Guerre mondiale. L'Empire ottoman a été démantelé. Les Turcs se replient sur la Turquie continentale, massacrant au passage les Assyriens, les chrétiens grecs et bien entendu les Arméniens, et fondent une république laïque. En même temps, en 1925, on est en 1921, 1925, le califat est aboli par Mustafa Kemal. Le califat, qu'est-ce que c'est? C'est l'autorité suprême du monde musulman. Celle qui a la main sur tout l'espace musulman. Donc le calife, c'est le commandeur des croyants, hein. C'est à la fois un roi et un pape, si vous préférez. Ce calife, donc, est aboli, puisqu'il n'y a plus de calife, puisqu'il y a une république en Turquie. Ça a une conséquence considérable, hein, cette affaire-là. D'abord, les territoires arabes qui étaient sous domination ottomane sont, de fait, libérés. Entre parenthèses, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors on est en pleine période de colonisation, pas question, on ne va pas laisser les Arabes se débrouiller tout seuls quand même trop vite. Donc il y a les vainqueurs, britanniques et français, décident de s'octroyer les territoires. Alors il y a une grande négociation entre, c'est la fameuse ligne Sykes-Picot, qui sont les deux ministres concernés, britanniques et français. C'est une négociation assez longue, je ne vais pas revenir trop là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué, mais disons grosso modo, les Français obtiennent ce qui n'intéresse pas les Britanniques. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les Britanniques, de toute façon, veulent contrôler la Palestine. Or, la Palestine à l'époque, attention, vous voyez, il y a marqué Palestine, mais à côté, il y a marqué Transjordanie. Or, là, on a l'impression qu'il y a une frontière, comme toujours, mais le trait entre les deux... C'est un trait. On a des paysages qui sont semblables. Et puis quand même, il y a un truc qui est pas mal, c'est que dans la Transjordanie, on a une famille, c'est les princes, c'est la monarchie, ce qui va devenir la monarchie hachémite. Et ce sont des princes qui sont révoltés contre l'Empire ottoman avant la guerre. Et qui donc ont reçu le soutien des Britanniques. Laurence d'Arabie, ça vous rappelle peut-être quelque chose?
Oui,
hein, voilà. Bon, il y a une barre de romancée, mais c'est quand même il y a une réalité derrière. Et donc, on se dit, ces gens-là sont avec nous, on devrait pouvoir s'entendre avec eux. Donc, on a des territoires, et puis, troisième point, le pétrole. Le pétrole, il faut savoir que jusqu'en 1830 à peu près, le pétrole, c'est quoi? C'est un truc dégueulasse qui pue, qui est là dans les champs, et on a quelques peuples plus ou moins barbares qui utilisent le pétrole pour allumer leurs lampes, les sites, etc. Personne ne s'intéresse au pétrole, évidemment, tout change avec la révolution industrielle, et les premiers puits de pétrole, on fonde le premier, je crois que c'est un Américain qui s'appelle Drake, qui fabrique le premier puits à 50 mètres de profondeur, le pétrole, ça va commencer à intéresser beaucoup de monde. Alors, évidemment, les Britanniques qui sont quand même, jusqu'en 1914, l'empire le plus puissant. Rappelez ce que disait Victoria, hein, la reine, hein, que le soleil ne se couchait jamais sur l'empire britannique, hein, et qui était un empire qui a en fait été la première grande mondialisation avant la nôtre, avant celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc on s'intéresse au pétrole, on s'intéresse au mandat
au mandat juif sur la Palestine, et on espère avoir des alliés avec la Transjordanie. Donc les Français vont se retrouver avec le Liban et la Syrie. En 1924, un contingent de soldats français, de braves paysans français, dont mon grand-père maternel, sont envoyés au Liban pour faire régner la paix française, hein, en quelque sorte. Donc voilà, et ils vont donc se retrouver là, des jeunes troufions bretons et tourangeaux qui vont se retrouver embarqués et découvrir le Liban et la Syrie. Bon, après tout, les voyages forment la jeunesse. Voilà, donc voilà, on a ce partage du monde arabo-musulman de la région entre les Anglais et les Français.
Et c'est quoi tout en haut, le jaune?
Ah, alors le jaune, ah oui, bonne question, Alexandrette.
C'est quoi ça?
C'est quoi? Alexandrette, c'est un nom français. C'est un territoire qui est français, que les Français avaient obtenu depuis le grand jeu avec la lutte pour la mer Noire, avec les Russes, entre les Russes, les Turcs, les Français et les Anglais. Les Français avaient obtenu ce petit morceau-là et ils acceptent de le donner à la Turquie. Il y a un échange avec la Turquie. On échange parce que, ben oui, on contrôle quand même une zone qui était turque avant. Hein. Dans la région qui est là, je vous signale, je ne sais pas si vous voyez le nom des villes, Alep Raqqa, ça ne vous rappelle rien? Alep Raqqa, on se bat encore du côté d'Alep. Hein. Et qui se bat du côté d'Alep? C'est les Turcs. Qui soutiennent les groupes djihadistes contre le gouvernement syrien actuel. Le gouvernement syrien tient à peu près la moitié de son pays. Raqqa, c'est l'ancienne capitale de l'EL, de l'État islamique. Vous serez pardonné. Il en faut une.
Si c'est M. Rothschild, vous ne le coupez pas.
Ça va pour... Voilà, vous voyez, donc dans cette région-là, c'est toujours très compliqué. Palmyre a été en grande partie détruite. Hein. Alep, là, si vous avez eu la chance d'aller à Alep voir la vieille cité, la magnifique vieille cité d'Alep, ben, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus. Et oui. C'est quand même terrible tout ça. Alors, on arrive au plan de partage. Un plan de partage qui reprend ce que les Britanniques avaient fait. Ah, alors là...
Mais je ne sais pas comment faire.
Oui. Oh, c'est pas très grave, hein. On ne va pas en faire un problème. Alors, le plan de partage proposé par l'ONU, si vous voulez, reprend ce que les Britanniques avaient essayé de faire. Vous savez, les Britanniques... je vais faire un peu de bashing, mais je vais m'en profiter. Les Britanniques, ils ont une autre opinion de leur diplomatie. Bon. Et ils pensent, pourquoi pas d'ailleurs, ils pensent qu'ils vont résoudre le problème. Après tout, s'il y a deux peuples, il suffit de faire deux États. On partage. Bon, c'est quand même très naïf. Hein. Parce que, regardez, partager une carte comme celle-là. Bon, sur le dessin, il est vachement bien. C'est super. Bon, allez, trois morceaux, c'est pour les Palestiniens. 1, 2, 3 pour les Israéliens. C'est cool. Hein. Quand on regarde la carte, c'est super. Seulement, la réalité, c'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'on l'a vu, la dernière carte. C'est que vous avez des populations juives et des populations musulmanes, ou arabes, ou israéliennes, qui sont imbriquées. Cette carte est mensongère, d'une certaine façon. Ouais. Vous voyez, elle dit pas ce qu'il y a derrière. Donc, ce plan de partage de l'ONU, comme les livres blancs britanniques, c'est toujours la même chose. Ça ne peut aboutir qu'à ce qu'on appelle un nettoyage ethnique. Quand on réfléchit, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, c'est ce qui se passe en 1947. L'ONU propose un plan qui est accepté majoritairement par l'Assemblée. Alors, l'ONU, c'est 50 pays en 1947. Hein. Vous enlevez toutes les colonies, vous gardez l'Europe, les États-Unis, l'Union soviétique, et vous avez fait le tour. Mais bon, le plan est accepté. Seulement, comment mettre en œuvre un plan pareil? Ça ne marche pas. Les dirigeants arabes, notamment les dirigeants religieux arabes, refusent. Là, je parle des Palestiniens. Ils refusent.
Mais il faut savoir aussi que, par exemple, il y a, je ne peux pas tout vous dire, mais en 1937, 38, 39, il y a une grande révolte arabe, parce que les terres, évidemment, cultivées par les juifs, eh ben, sont de mieux en mieux entretenues. Et ils commencent à se dire, ah ouais, très rentable, il y a de l'exportation qui commence, etc. Le commerce marche.
On peut le récupérer.
Certainement. Au moins, je dirais, certainement en ce qui concerne un certain nombre de territoires qui seraient majoritairement arabes, qui pourraient former un ensemble. C'est clair. C'est clair. Or, il y a des massacres, il y a des pogroms, les Britanniques interviennent assez lourdement et n'arrivent pas à obtenir la paix, donc ils passent la main, ils sont bien contents en 1947 de passer la main à l'ONU. Mais le problème est entier. Alors Jérusalem, puisque tu as posé la question de Jérusalem, Bernard. Jérusalem est pour l'instant considérée comme ville sous statut international. Alors, on dit ben, Jérusalem, statut international, avec une force de l'ONU. Voilà. Hein, la, Jérusalem qui est au centre ici d'un territoire qui est considéré comme un territoire palestinien. Je vous en prie.
Non, mais je trouve que la découpe des territoires est vraiment bizarre.
Alors, en fait, oui, mais c'est une découpe qui suit les livres blancs britanniques et les implantations des colonies et qui laisse une place importante et qui essaie de faire, en fait, une continuité territoriale. Mais c'est vrai que quand on regarde les passages, on se dit la continuité territoriale, elle est très artificielle. Mmh. Absolument. Mais quand il y a eu la guerre dans les Balkans, quand il y a eu la guerre dans les Balkans en Yougoslavie, la question s'est posée exactement de la même façon. Entre la Serbie et la Croatie, par exemple, et surtout la Bosnie-Herzégovine, et c'était un mélange. À Sarajevo, les gens étaient croates, bosniaques, et se connaissaient, etc. Et imaginez, vous êtes ensemble, vous connaissez, beaucoup d'entre vous sont... Et puis un jour, on décide de se massacrer les uns les autres. C'est quand même ça qui se passe. C'est ça, le nettoyage ethnique. Alors effectivement, quand on garde une carte comme celle-là, très franchement, comment ça pouvait fonctionner? Non, il faut le rappeler, parce que l'ONU à Bordeaux hein, joue un bon rôle. Hein. L'ONU, ils ont leur résolution, on est à la résolution 237 ou 238. Ils ont fait leur job. Hein. Enfin bon, je crois que... Non, mais là, je me permets un petit commentaire personnel, excuse. Mais bon, alors évidemment, le résultat, il est simple, il est là. Hein. Et là, vous avez raison, ça ne marche pas. Et là, on voit tout de suite ce qui se passe. Alors, 48, création d'État d'Israël, qui se décide contre les Britanniques, contre l'ONU, bon, les Britanniques ne jouent plus un rôle important, contre l'ONU, en tout cas, et puis qui se décide contre les Arabes palestiniens, avec la Haganah, l'armée clandestine qui avait lutté contre les Britanniques, d'ailleurs, qui est organisée par Menachem Begin, qui deviendra Premier ministre d'Israël plus tard, et qui décide de prendre le pouvoir. Et prendre le pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on considère qu'on est chez nous, c'est pas difficile. On chasse les Palestiniens. On va chasser les Palestiniens. Alors c'est ce que les Arabes, les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe en arabe. 700 000 Palestiniens quittent leur terre, sont chassés de chez eux par la violence. Hein. Où est-ce qu'ils vont? Alors ça, ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'ils vont? Là, dans la carte, on parle de 750 000 réfugiés palestiniens. Alors, vous voyez, d'abord, je vais prendre les choses dans l'ordre. Là où ils vont, d'abord, c'est la Jordanie. Alors, vous voyez, Cisjordanie, 38%, 10%, ça fait 48%. Ça veut dire qu'un Palestinien sur deux va en Jordanie. Attention, la Jordanie est envers, la Cisjordanie est envers. La Cisjordanie... Le roi Hussein a mandat sur la Cisjordanie. Donc la Cisjordanie, l'ouest du Jourdain. Bon, le Jourdain passe ici. Hein. Je ne sais pas si je peux le... Le Jourdain, il est là. On ne le voit pas. Il est là. Hein? D'accord. Donc le Jourdain, c'est plus la limite territoriale entre la Jordanie, c'est plus la limite politique entre la Jordanie et l'Israël, excusez-moi, ou tout au moins la Palestine. Là, on a donc une concentration très importante des émigrés, des chassés, des Palestiniens chassés de leur terre. attention, il s'agit bien de leur terre. C'est pas parce qu'ils... Quand on dit qu'ils ne les cultivent pas, il ne faut pas exagérer non plus, il y a des cultures. Hein. Il y a des cultures, il y a des bédouins, il y a des cultures, mais c'est leur terre, ils ont des actes de propriété. Hein. Donc, il y a donc un premier mouvement vers la Jordanie. Le deuxième mouvement, et c'est intéressant parce que ça conditionne la suite, vous allez voir, le deuxième mouvement, c'est vers la Syrie et le Liban, en haut. Vous voyez, Syrie-Liban, pardon, 14% vers le Liban, 10% vers la Syrie. Ces gens-là se trouvent dans des camps de réfugiés. Ils ne sont pas accueillis dans les maisons. Hein. Comme dans tout système migratoire forcé, ils se retrouvent dans des camps qui sont installés par l'ONU, d'ailleurs, là où les pays qui les reçoivent veulent bien les accepter. Et puis, on a une petite émigration, un petit déplacement vers l'Égypte, 1%. Alors, c'est assez intéressant pour l'Égypte, on y reviendra. Et puis, la bande de Gaza, que j'ai oublié, excusez-moi, la bande de Gaza, qui était un des territoires qui était historiquement prévu pour les Gazaouis, pour les Palestiniens, là, on a une forte émigration vers la bande de Gaza, hein, qui, à titre indicatif, était, jusqu'à il y a peu, une des régions les plus densément peuplées du monde. Voilà. Alors cette carte, elle a une grande importance parce qu'elle nous permet de nous comprendre, de comprendre quelque chose qui est très paradoxal. C'est, et j'insiste là-dessus, c'est l'absence de soutien des pays arabes à la cause palestinienne. C'est quand même extraordinaire. On entend parler de la rue arabe. Là, à propos de... Évidemment, je ne vais pas parler des événements très récents. Hein. On entend parler de la rue arabe qui proteste, on entend parler des opinions occidentales qui protestent contre ce qu'ils appellent le génocide, pour y discuter du terme, en tout cas, un massacre établi, hein, de population civile, ça c'est clair. Mais il n'y a pas de soutien des pays arabes. Aucun pays arabe n'a dénoncé, par exemple, a rompu ses relations diplomatiques avec Israël. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Et on le voit aujourd'hui, mais on le voit à l'époque déjà. On va le voir tout de suite avec... je vous ai présenté un scénario de la guerre. On ne va pas raconter toutes les guerres qu'il y a eu, mais il y en a eu quelques-unes quand même.
Qu'est-ce que ça sous-entend?
Ah ben voilà. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ben ça sous-entend que... Je pourrais vous dire ça de deux façons. Si tu veux bien, je vais d'abord le faire avec la carte et ensuite je répondrai directement.
Vous êtes en quelle année, monsieur? 48?
Alors, 47-48, madame, c'est la création de l'État d'Israël, 48. Et c'est aussi une guerre, c'est une première guerre. C'est une première guerre, effectivement, mais bon, les Arabes ne sont pas prêts à la guerre, de toute façon. Et donc les choses se font comme ça. Et puis la Jordanie garde quand même la Cisjordanie. Ce qui est important, c'est la guerre des six jours. Alors c'est la troisième. La deuxième, c'est Nasser avec le canal de Suez. Nasser qui a un rôle très important dans le monde arabe. Et là, je réponds à ta question. C'est la question du nationalisme. Je crois que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a quelque chose dans le monde arabe, ce qu'on appelle la Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants. Cette communauté des croyants, c'est l'idée, par exemple pour les salafistes, pour évidemment les djihadistes, pour ceux qui ont une lecture littérale du Coran, c'est de dire qu'il faut que les musulmans se réunissent autour d'une autorité religieuse et forment une grande communauté. Pour les djihadistes, c'est clairement la communauté universelle, c'est tout le monde devient musulman. Hein, mais bon, il y a des degrés. Hein. Il y a des degrés. Et donc l'idée, c'est de dire que c'est ça qui est plus important. Et ça transcende, bien entendu, les États qui sont une création occidentale. Les États-nations, tout ça, c'est un truc d'occidentaux. Ça ne marchera pas chez nous. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement le contraire. Dès qu'il y a indépendance, vous avez des États arabes qui se constituent et qui n'en ont rien à faire de la Oumma. Ce qui les intéresse, c'est leur État de constituer une légitimité, qui est parfois une légitimité historique, dans le cas par exemple de la Jordanie, et du Royaume hachémite, ou du Maroc, ou l'Égypte. Et ce qui les intéresse, c'est d'être des États. Et puis, on connaît notre histoire en Europe. Hein. Mais oui, mais en Europe, c'est la même chose. Je veux dire, on s'est tapé sur la tronche, excusez-moi. Pendant des centaines d'années entre chrétiens. Ça n'a pas été un problème, hein, franchement. Avec les Anglais, on a fait 3 guerres de 100 ans. Donc, on est copains maintenant, c'est super. Je vous signale que l'amitié, la glorieuse, quand même, une entente cordiale, a été réactivée il n'y a pas très longtemps par le roi d'Angleterre. Hein.
Donc c'est quelque chose de sérieux. Et je peux vous dire que même si la Grande-Bretagne, Royaume-Uni, pardon, est hors de l'Europe, en cas par exemple de conflit en Europe, ils seront là.
Oui.
Ils seront là.
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Ben, je crois que. Non, mais c'est. Voilà. Mais bon, c'est pas parce qu'on était chrétien qu'on était super copains, que tout le monde était. Alors il y en a qui ont essayé, hein, Charles Quint, il y a eu des époques où on a essayé de unifier. Et puis ça s'est transformé en guerre de religion, des conflits, etc. Donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'on comprenne que les peuples arabes veulent se constituer en tant qu'État. D'ailleurs, il y a des moments presque drôles, si je puis dire. Avant la guerre des six jours, après la guerre des six jours, je vais peut-être le dire maintenant, septembre 70-71, il y a une majorité de Palestiniens qui sont donc dans l'Empire hachémite, dans le royaume hachémite, en Jordanie. Ils sont majoritaires, ils représentent 60% de la population. Qu'est-ce qu'ils font avec Arafat qui est sur place? Ils se disent, bon, bah, le roi, c'est un vieux truc, on a viré le roi en Irak, on a viré le roi en Syrie, on va virer le roi en Jordanie. Bon. Sauf que Hussein, qui est allié des Américains de fait, organise une répression et qui écrase les Palestiniens. Arafat se retrouve viré, obligé avec la direction de l'OLP de se retrouver au Liban, en attendant d'aller en Syrie. Donc c'est l'écrasement des Palestiniens. Pourquoi? Parce que la nation se constitue par le peuple, et pas avec un truc vaguement identique religieux, très très vague, avec des gens qui sont très différents. Pour un Marocain, un Algérien, pour un Marocain, un Algérien, c'est pas un Marocain.
Non.
Et vice-versa. Et on ne parle pas la même langue.
Oui.
En plus.
On parle des dialectes.
On parle des dialectes, bien entendu. Alors l'arabe littéraire, ça va. Les intellectuels se comprennent très bien, mais l'homme de la rue, non. Puis il y a une sacrée différence d'histoire. Et des conflits actuellement, d'ailleurs. Non. Et ça, c'est normal, je veux dire, il n'y a rien d'illogique là-dedans. Alors en 67, troisième grande guerre, là, quand même, il se passe quelque chose d'important, c'est que la Cisjordanie va être perdue. Hein, il y a une guerre, donc c'est la Syrie et la Jordanie qui essaient d'envahir Israël et qui sont refoulés en six jours avec Moshe Dayan, hein, c'est une grande victoire israélienne, militaire. Et le Golan est pris, donc le Golan, c'est le territoire d'en haut, c'est le plateau du Golan est pris à la Syrie, et la Cisjordanie est prise à la Jordanie. Et là, effectivement, statut de Jérusalem, ben Jérusalem Est, Jérusalem Ouest, Jérusalem Est était administré par la Jordanie. Jérusalem Ouest était administré par l'État hébreu, le jeune État hébreu. La capitale étant Tel Aviv, c'est facile à comprendre pourquoi. Hein, puisque de toute façon, Jérusalem ne pouvait pas être la capitale étant donné son statut de ville double, en quelque sorte. Donc, là, il y a un grand changement en 67. L'armée israélienne, alors il y a des images très célèbres, on voit Moshe Dayan avec son œil qui vient sur le mur, qui est un laïc. Hein. Moshe Dayan n'est pas religieux du tout, hein, qui vient sur le mur, mettre la main sur le mur des Lamentations. Et là, il y a un grand moment, bah oui, mais c'est le retour à Eretz Israël, à Israël des départs. C'est cette erreur, j'allais dire, des peuples arabes, des nations arabes à côté, de vouloir envahir Israël, fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une Cisjordanie occupée par Israël. Les responsabilités sont multiples dans cette affaire. C'est ça qui est terrible. Et invoquer sa légitimité, c'est sacrément compliqué, quoi. Alors, évidemment, à nouveau, immigration, bien sûr, hein, immigration des Cisjordaniens, notamment, et des Syriens, classiques, hein. Qui sont aujourd'hui, et là c'est là que c'est terrible, on est 80 ans quasiment après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a le droit au retour qui est toujours inscrit dans les enseignements, dans l'école, dans les mentalités chez les Palestiniens, qui un jour espèrent retourner. On voit des gamins, par exemple, au Liban, ou des gamins en Jordanie avec une clé autour du cou, des petits mômes qui vont à l'école maternelle, avec une clé autour du cou, c'est la clé de la maison. La clé de la maison en Israël, aujourd'hui en Palestine hier. Donc il y a un récit, si vous voulez, fondamental chez les Palestiniens du retour à la frontière de 47. Mmh. Évidemment, on comprend bien, totalement impossible, irréalisable. Mmh. Ce qui veut dire, bah, ça veut dire la destruction d'Israël, de toute façon, c'est clair. Mais donc on a deux récits qui vont s'entrechoquer complètement, hein, à partir de 67. Tout bascule avec la conquête de la Cisjordanie. Je vous en prie, hein. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Oui, je vous en prie.
Au niveau de la population, entre 48 et maintenant,
oui.
Même 67, pas 48, quel est le rapport?
Un sur deux. Un pour deux.
Un pour deux.
600 000 en 47, on s'accorde pour dire 600 000 Israéliens, 1 200 000 Palestiniens.
Et maintenant, on est à pas loin de 10 millions de...
Oui, oui, oui.
Donc 20 millions de Palestiniens.
Ah non, du tout, du tout. 10 000. Non. C'est 8,8 millions pour l'Israël en tant que tel.
Oui.
Palestiniens.
Il y
a moins de Palestiniens, mais il y a une démographie beaucoup plus importante. Il y a une natalité plus importante. Donc ça aussi, c'est toujours pareil. C'est toujours quelque chose qui rentre dans les débats en Israël. C'est la question de l'importance de la population à terme palestinienne par rapport à la population israélienne. Ceci dit, Israël est aujourd'hui un des pays où la natalité est la plus forte au monde. Hein, à cause, en partie à cause ou grâce, comme on veut, des Hasidim, c'est-à-dire des Juifs ultra-orthodoxes, qui ont, je crois, un taux de fécondité d'autour de 7 enfants par femme.
Ce que je veux dire, parce que quand même, à l'époque, les Palestiniens étaient plus nombreux.
Ah oui, oui, bien sûr, ils ont toujours été plus nombreux.
Non, mais maintenant, vous me dites que non.
Non, parce que, ben bah, oui, parce que, alors...
Donc c'est pour ça,
oui.
Ça doit changer beaucoup de choses aussi.
Alors,
dans le conflit.
Il faut quand même que je sois précis, parce que vous, oui, m'interpellez, vous avez raison. Oui. Moi, je vous parle que des gens qui sont à l'intérieur d'Israël.
Oui, l'intérieur
de la... Mais à l'extérieur d'Israël, vous avez des populations palestiniennes qui se considèrent comme palestiniennes.
Moi, je parle sur le territoire.
Alors, sur le territoire, c'est une majorité d'Israéliens.
C'est une majorité, oui, d'Israéliens, ce qui n'était pas, mais le cas à l'origine.
C'est ça, absolument. À cause de la Nakba, de l'immigration, qui a été considérable. 750 000 personnes sont parties quand même, sur 1,2 million.
Voilà.
C'est énorme.
Et maintenant, il reste 2,3-4 millions peut-être.
Mais la question démographique, de toute façon, elle est, à mon avis, pas tellement dans le rapport actuel de population en chiffre absolu, mais plutôt dans la fécondité. La question de la fécondité, qui est encouragée fortement chez les Palestiniens, et qui, bien entendu, encourageait fortement aussi chez les Israéliens, au moins les Israéliens ultra-orthodoxes, ceux qui sont justement pour le grand Israël. Alors, on va... Je voudrais rapidement... Non, je vous en prie, allez-y.
Oui, mais je veux dire, cette population que vous indiquez, là, vous faites tous 10 enfants, c'est toute la population qui ne travaille pas, qui ne se combat pas, qui est une population un peu...
À travers le monde, vous voulez dire?
Non, non, en Israël, il y a toute une partie de la population, enfin, je ne dis
alors,
pas le terme, qui est effectivement... Les juifs, vous avez indiqué,
ultra-orthodoxes, hein,
c'est ultra-orthodoxe, c'est une population qui, a priori, ne fait que prier.
Alors,
étudier, mais je veux dire...
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors,
ne participe pas à la vie d'Israël.
Alors... en fait, depuis tout, pour moi, 67, c'est le point de départ. En 67, quand Moshe Dayan va prier sur le mur alors qu'il est laïque, on a un basculement. C'est pas de la faute de Moshe Dayan, c'est pas parce que c'est Moshe Dayan, mais c'est un symbole. On a un basculement d'un État laïque socialisant, d'ailleurs, avec les kibbutz, etc. Entre parenthèses, ce sont les kibbutz qui se sont fait, les kibbutzim qui se sont fait massacrer,
oui,
le 7 octobre. Oui. Entre parenthèses, qui sont des gens qui étaient plutôt des militants, disons, de l'arc gauche de la politique israélienne, favorable au mouvement de la paix, qui ont été massacrés. C'est quand même assez ironique, hein, d'une certaine façon. Alors, pour répondre à votre question, les juifs ultra-orthodoxes ont été dispensés de service militaire, étudient, c'est la grande tradition rabbinique juive, hein, et donc étudient, comme on étudiait autrefois la Bible. Donc, ils sont dispensés de service militaire, ils sont dispensés de guerre. Or, c'est en train de changer. C'est pas impossible que le gouvernement... là, c'est en discussion. La Cour suprême a demandé
a demandé à ce que l'exemption des hassidim soit levée. Donc ça serait une révolution en Israël, d'une certaine façon, puisqu'on les obligerait à faire leur service militaire, qui est quand même de 4 ans, hommes et femmes. Hein. Et service militaire sur le front. Hein. Donc c'est pas rien. Mais c'est vrai que c'est une conception très différente. De même que, par exemple, quand Théodore Herzl, en 1904-1905, écrit son livre sur le sionisme, il est critiqué très vertement par les rabbins, qui disent « Ah non, 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 on ne retrouve pas en Israël avec des laïcs, on attend le Messie. » Donc on a les deux visions de la Terre promise ne se retrouvent pas ensemble. On a des grandes cassures dans la société israélienne. On pourrait citer aussi l'arrivée massive des juifs soviétiques, par exemple, après 91. Qui sont des juifs très pieux. Alors quand je dis soviétique, c'est l'Ukraine, entre parenthèses, grand pays, grande minorité juive, massacrée d'ailleurs, massacre de Babylon en 1941. Il y aurait beaucoup à dire. Sur la question des nazis ukrainiens, il y a effectivement des nazis ukrainiens à l'époque. Il y en a. Après, l'argument de Poutine, évidemment, c'est un argument qui est bien pratique, on va dire. Mais on a des populations qui vont émigrer, qui sont des populations très religieuses et qui sont des populations rabbiniques. Parce que c'est des villages, parce qu'ils vivaient c'est les Yiddish land, hein. C'est les Yiddish, hein. Qui n'étaient pas du tout assimilés comme les juifs occidentaux, britanniques, autrichiens, allemands.
Américains.
Sans compter les Américains. Oui. Bien sûr. Je rappelle, l'Amérique, c'est l'endroit où il y a plus de juifs.
Oui. La ville de New York, c'est la ville de New York, bien sûr. C'est la première.
Oui, bien sûr.
C'est la première ville juive du monde.
Oui. Oui, puis Abidjan, c'est la deuxième ville française.
Oui, non, c'est Washington.
On pourrait pousser la métaphore comme ça. Je voudrais terminer sur l'échec des résolutions, des tentatives de résolution. Bon, il y a des accords quand même en 73, la question des colonies israéliennes avec l'Égypte. Il y a des accords avec l'Égypte. Vous voyez quand même qu'il y a des pays arabes qui cherchent des accords. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que leur intérêt, les Palestiniens sont un petit peu le grain de sable dans la chaussure, un caillou. C'est pénible, quoi. On aimerait bien résoudre le problème. Je rappelle que juste avant le 7 octobre, il y avait quand même eu un livre qui a été écrit par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, qui écrit un livre où il raconte les bienfaits que Trump a apportés au Moyen-Orient. Et il dit, par exemple, les accords d'Abraham, c'était bien, on avait prévu, on était en accord, on est en train de discuter avec l'Émirat du Qatar pour faire un Abu Dhabi à Gaza City. Bon, quand on regarde les photos, on en trouve facilement sur Internet, les photos de Gaza, les quartiers littoraux, c'est des quartiers balnéaires, on se croirait sur la Riviera. Attention, hein, c'est l'élite, évidemment, l'élite Hamas, qui est des grandes familles Hamas qui sont sur le littoral. Les autres crèvent la dalle. Hein. Mais voilà, et l'idée, c'est de dire, on va mettre un paquet de pognon, on sait faire, et on va construire un Singapour. Un Singapour arabe, à Gaza. Donc il y avait l'idée que, bon, tant pis pour les territoires, mais on peut organiser quelque chose, quoi. Et qui est-ce qui a marché dans la combine? Le Maroc, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le pays des lieux saints de l'islam, les wahhabites, c'est-à-dire que c'est quand même l'islam rigoriste qui a fichu un bazar pas possible dans un tas de pays, y compris en Afrique. Hein. Le futur roi, il est Ben Salman, hein. Il a passé son temps au téléphone pour essayer d'arrêter le Hamas. Parce qu'ils ont besoin de la technologie israélienne pour se développer. Ils ont le pognon. Mais ils ont besoin de la technologie israélienne et américaine, et surtout israélienne. Et donc, eux, ça ne les intéresse absolument pas d'avoir le conflit. C'est pour ça que le conflit a lieu. C'est pour ça, parce que le Hamas local, Yahya Sinwar, le chef local, qui a téléguidé l'affaire, qui est un combattant palestinien classique, qui a fait 20 ans de tôle dans les geôles israéliennes, qui a appris l'hébreu, qui est un personnage tout à fait étonnant. Hein. qui a organisé le circuit là, avec toutes les galeries en dessous, etc. Et qui d'ailleurs a pris la décision sans en référer aux chefs qui sont au Qatar. Chefs au Qatar qui étaient avant en Syrie, mais qui ont été virés par les Syriens parce qu'ils ont soutenu l'opposition à Bachar el-Assad. Ils sont retrouvés au Qatar, les Américains ont dit « Oh, vous accueillez les terroristes du Hamas ?» Les Qatar ont dit « Ben, s'il faut discuter un jour, autant qu'ils soient sur place. » Voilà. Donc on n'est pas du tout dans une union arabe qui soutiendrait les Palestiniens, mais plutôt embêté par l'affaire palestinienne. Je rappellerai simplement que, malheureusement, pour conclure sur la question de l'échec des accords, que les petits-enfants palestiniens apprennent la haine d'Israël très tôt, mais que malheureusement les colons de Cisjordanie, les colons israéliens de Cisjordanie, notamment religieux, savent la manier également. Et leur rêve, c'est de chasser les Palestiniens qui restent en Cisjordanie, de les chasser du territoire. Donc on est en présence de deux récits antagonistes, violents, haineux. Hein, et c'est sûr que là, l'échec... Alors bon, je vais parler du principal échec, parce que c'est quand même terrible. Les accords d'Oslo. Bon, les accords d'Oslo sous l'égide des Américains, mais les Américains, ils ont récupéré le truc. Hein. Clinton s'est fait photographier avec Arafat et Rabin qui serrent la main, qui font une grosse poignée de main, et il y a Clinton derrière qui... Bon, mais ça s'est fait quand même avec des négociateurs israéliens et palestiniens. Qui sont rencontrés en secret à Oslo, qui ont négocié, qui ont discuté.
C'est en quelle année, ça ?
C'est 92-93. 91 même, ça commence en 91. Ça commence en 91, on discute, parce qu'en 87, il y a une intifada, la guerre des pierres. Il y a une intifada qui commence et qui est très violente, hein, et qui remet en question, on s'inquiète, on se dit, faut faire quelque chose, quoi. La guerre des pierres, c'est des gamins qui balancent des caillasses sur l'armée, qui se font tirer dessus, etc. Ça choque énormément l'opinion publique, c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'une certaine façon. Hein. On a un moment où l'opinion internationale réagit, on cherche des solutions. On cherche des solutions. Alors il y a les accords d'Oslo, c'est la fameuse carte, la fameuse peau de léopard. Vous avez là c'est juste la Cisjordanie, hein. Vous voyez le Jourdain, la Jordanie à côté. C'est l'un des deux territoires qui appartiennent à la Palestine, qui sont censés appartenir à la Palestine. Relativement unifié, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Il est relativement unifié. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on constate tout de suite qu'il y a trois zones. Parce que à Oslo, puis au Caire, où c'est finalisé, on met les principes en place. Il faut deux territoires, deux États, il faut progressivement... que ça se mette en place, etc. Mais on ne discute pas trop des modalités pratiques, c'est toujours le même problème. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une autonomie palestinienne en vert foncé. En vert foncé, c'est pas beaucoup. En vert clair, on a quoi ? Une autonomie palestinienne, mais civile. Pendant ce temps-là, Israël garde la main sur le plan militaire, en cas de trouble, etc., sur les territoires en vert clair. Et puis on a carrément la zone en jaune clair, qui est la zone sous contrôle palestinien. Excusez-moi. Israélien. La zone sous contrôle israélien, voilà. Oui, alors il y a une erreur dans la... il y a une erreur dans ma carte. La zone est sous contrôle israélien. Donc on est en présence d'une carte déjà qui pose problème. On se retrouve toujours avec cette situation de territoire. Comment faire pour avoir des territoires qui vont être... relativement unifié, sans que ça pose des problèmes de déplacement de population compliqués.
Le vert foncé, ce sont les
Palestiniens.
C'est l'autonomie. Voilà. Où ils ont la main sur les territoires, le vert foncé. Donc si tu veux, Colette, il y a. Le reste, ben.
C'est... Et le vert clair, alors.
Ils l'ont pas. Le vert clair, c'est partager une autorité civile palestinienne, une autorité militaire
israélienne. Ça peut pas le faire. Ça veut dire que les trois quarts, c'est israélien.
C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, mais pourquoi ? Et là,
on revient à la carte du départ.
Alors, je vais vous en montrer une autre. C'est celle-là. Des colonies israéliennes en Cisjordanie, aujourd'hui.
Oui.
Là, vous avez la peau de léopard et vous avez les différentes colonisations. Alors, c'est intéressant de voir comment ça se passe. Vous voyez, la partie
qui est contrôlé par Israël, c'est les petits triangles en vert, là. Oui. Ça, ça date d'avant. Oui. Ça date d'avant 87. C'est déjà des colonies installées dans cette région. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des populations israéliennes dans des zones qui étaient globalement attribuées aux Palestiniens.
Comme par hasard, c'est les rives du Jourdain.
Alors, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le lac de Tibériade, les rives du Jourdain.
Ça veut dire fertile.
Oui, bien sûr, mais voilà, après, ils ont leur légitimité à s'installer là aussi. Là où ça pose problème, effectivement, c'est quand on regarde les autres couleurs. Et notamment, je vous montre la légende, vous allez voir, alors la légende, elle est de l'autre côté, mais je peux vous la dire simplement. C'est les bleus foncés. Le bleu foncé, qu'est-ce que c'est ? C'est des colonies nationalistes. C'est-à-dire, c'est des juifs qui se sont installés après les accords d'Oslo.
Ah oui, d'accord.
Et qui ont bénéficié du soutien de l'armée pour pouvoir s'installer, voire dynamiter des maisons palestiniennes. Ça n'a pas toujours été très clair. Ou installer à des endroits où il y avait des passages routiers, etc. Et ils ont fondé des colonies qui sont considérées aujourd'hui comme illégales. Donc que ce soit c'est ce qu'on voit en bleu foncé. Oui.
Ça correspond à combien d'habitants ?
Ah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est rendu à 300 000 personnes, à peu près. 300 000 personnes en Cisjordanie qui sont en colonie, dans des colonies, dont certaines sont légales et d'autres illégales. La plupart, d'aujourd'hui, sont illégales. Au regard du droit international, bien sûr. Or, Israël, à l'heure actuelle, notamment les gouvernements actuels d'Israël, avec Netanyahou et les partis religieux qui sont associés à Netanyahou, d'ailleurs on se demande comment ça va se passer si les religieux doivent aller à la guerre, justement, il y a des chances que ça renverse Netanyahou. Mais en tout cas, là, on a poussé, les derniers gouvernements ont poussé, mais je crois qu'il faut quand même dire les choses très clairement, ça a commencé avec Rabin. Ça a commencé avec les socialistes. Ça a commencé avec la gauche israélienne, ça a commencé avant. Et puis, par exemple, Rabin a fait des déclarations qui a été assassiné, malheureusement, par un extrémiste. Mais Rabin avait fait des déclarations qui étaient très ambiguës sur la façon dont le processus allait se faire. Arafat a fait des déclarations devant des mosquées, dans des mosquées, devant des Arabes hors du pays. Notamment, il en a fait une en Australie, où il dit que le processus de paix est un processus évolutif vers la nation palestinienne, qui a vocation à c'était pas dit comme ça, parce que il y a eu un enregistrement, mais je pense que ni du côté israélien, et là on parle des chefs, mais regardez la population quand il s'agit de déménager. Vous êtes dans une situation illégale. Vous êtes installé. Et puis on vous dit, vous allez déménager. Comment faire à l'heure actuelle ? Il faudrait pratiquement qu'il y ait une force internationale qui puisse avoir assez d'importance pour obliger les colons, une partie des colons israéliens, à quitter la Cisjordanie. Et ça paraît très difficile. Parce que eux considèrent qu'ils ont une légitimité. Hein. Le grand Israël... c'est tout ça, hein. La Cisjordanie, ça fait partie, c'était la Samarie, la Judée, c'était Salomon, etc., David, c'est compliqué, hein.
Vous pouvez nous dire, qu'on voit l'échelle davantage, parce que oui. En fait, tout ça en plus...
Ça c'est bien, merci beaucoup, 10 kilomètres, la mer Morte c'est tout petit, vous voyez.
Et donc, 10 kilomètres, en fait, du nord au sud, c'est vraiment...
La Cisjordanie, c'est grand comme le Rhône.
Oui, c'est ça, voilà.
Enfin, le département.
Ça fait une densité.
Tout à fait.
Le département du Rhône.
Oui, c'est rien.
Ah oui ?
C'est pas grand.
Non, c'est pas grand.
Et donc, ça donne une idée de la densité, en plus, donc, de population et donc de risque de...
Ah ben oui. Mais c'est dingue quand même que...
Oui, mais alors on parle toujours des Palestiniens, mais en fait c'est le Hamas.
Alors, on parle des Palestiniens, il faut quand même dire, le Hamas a gagné les élections en 2005, a chassé l'autorité palestinienne de Gaza, n'a plus organisé d'élections depuis 2005, 2006. Donc dirige, mais comme dans beaucoup de pays arabes où c'est des systèmes autoritaires, qui sont relativement acceptés par la population, il ne faut pas non plus. Maintenant, si vous voulez, est-ce que la Palestine égale Hamas, c'est difficile à dire. Je pense que pour beaucoup de Palestiniens qui ont été attaqués, qui ont péri sous les bombes, qui ont vu des gens de leur famille, le ressentiment vis-à-vis du Hamas peut être fort. Mais en même temps, quelle solution ils ont ? C'est ça qui est très compliqué dans cette affaire-là. D'ailleurs, l'idée d'éradiquer le Hamas, c'est complètement fou, quoi. Parce que bon, c'est comme si on éradiquait les idées dans la tête des gens. Les gamins qui ont vu leur famille mourir, le cycle de la vengeance, quoi. Je vous en prie.
Pas une poignée d'hommes, le Hamas ?
Ah non, c'est pas une poignée d'hommes. Ils ont gagné les élections. Il y a 4 millions de, il y a 3 millions et demi de Gazaouis. Ils ont gagné des élections légalement. Ils ont eu la majorité. Donc ce n'est pas une poignée d'hommes. Ce sont des militants, oui, c'est peut-être 10%, 15% de la population. Mais vous savez, c'est comme ça dans, pratiquement tous les pays. C'est les élites, c'est les élites qui sont au pouvoir. Et qui, bon, je suis désolé de le dire, mais c'est que pareil partout, je veux dire. C'est
les Français. En Cisjordanie, il y a un président.
En Jordanie, il y a un roi.
Non.
Pardon.
En Jordanie,
Cisjordanie. Bah, c'est le fils de Hussein.
Alors, en Cisjordanie, attendez. Je vous demande. Alors, la Jordanie aujourd'hui, c'est un État souverain qui est allié en gros à Israël. D'ailleurs, ils ont fait partie des pays qui ont intercepté des missiles de l'Iranien. Alors, c'est pareil. La population jordanienne, en majorité, est pour les Palestiniens et contre l'État d'Israël. Mais le pouvoir jordanien est clairement du côté d'Israël. D'ailleurs, il y avait eu, au moment de l'État islamique, il y a eu un pilote qui avait été brûlé, qui avait été exécuté par les djihadistes, un pilote jordanien, qui avait participé à des bombardements sur Raqqa. Mais non, c'est ça qui est très curieux, c'est des États autoritaires. Par exemple, le Syrien là, a fait, pas el-Assad actuellement, mais le père Hafez el-Assad qui prend le pouvoir, je ne dis pas la date parce que je vais me planter, qui prend le pouvoir au moment de la Deuxième Guerre, la Deuxième Guerre contre Israël. Et alors, il est ministre de l'armée. Il envoie des chars pour soutenir les Palestiniens. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, il dit, non, on ne bouge pas. Alors tout le monde se demande, ben, qu'est-ce qu'ils font les Syriens ? Ils ne bougent pas, ils laissent tomber les Palestiniens. Ben, tout simplement, il y a une raison, c'est que lui, il est intéressé, il est en train de prendre le pouvoir et de renverser le roi. Donc voilà, le nationalisme est là. Les intérêts du pays sont là. Beaucoup plus que les intérêts, entre guillemets, des frères arabes, etc. Ce qui d'ailleurs pose un problème, parce que effectivement, on ne peut pas penser à un conflit qui serait un conflit. Moi, j'étais sidéré après le 7 octobre, et puis après l'intervention de Sahel. Où étaient les pays arabes ?
Ils n'y étaient pas.
Et j'ai assisté à un colloque à Toulon de sécurité sur la Méditerranée, où il y avait le représentant des services secrets, l'ancien dirigeant de services secrets turc, qui était un colloque, qui discutait. Et qui disait, de toute façon, ça c'était, on était en, c'était l'an dernier au mois de novembre, attendez, ça s'est passé le 7 octobre, non, c'était au mois de mai, c'était avant. Et il disait, nous les Turcs, de toute façon, les Arabes vont pas bouger, nous les Turcs, si on a un problème, c'est nous qui intervenons. C'est nous qui allons négocier. On n'a pas vu les Turcs. Et c'est quand même incroyable. Hein. Alors, et c'est pas qu'ils sont incapables, c'est qu'ils ne veulent pas. Vous avez aussi un autre pays qui n'est pas là, très curieusement, qui n'est jamais là d'ailleurs, c'est la Chine.
Oh, oui, enfin.
Non, politiquement, je veux dire.
Oui,
qui n'est pas là politiquement.
En sous-marin, il est là en sous-marin.
Il ne pèse à rien politiquement. Oui. Alors après, ce qui l'intéresse, c'est le business, c'est les ressources, etc.
En sous-marin.
Mais il ne joue pas de rôle diplomatique du tout.
Et les Russes, ils sont où dans...
Alors les Russes. Alors, pensons aux Russes. Eh ben, les Russes, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont contents.
Oui.
Ils sont contents pourquoi ? Parce que, ben, on ne parle pas d'Ukraine.
Voilà.
C'est super, quoi. C'est un peu ça, quoi. On parle pas de l'Ukraine, donc...
Il y a combien d'habitants, là, en Palestine ?
J'en sais rien. J'en sais rien.
Mais ce qui est étonnant, c'est que
j'en sais rien.
Les Arabes voisins n'entraînent pas ceux qui sont en train de se faire massacrer. Il y a plein de places en Égypte, il y a plein de places partout.
Ah, alors l'Égypte, bonne réponse. Pourquoi pas l'Égypte ? Après tout, il suffit d'ouvrir le passage à Rafah. À Rafah, il y a un passage, c'est l'Égypte qui contrôle le passage, c'est pas Israël. Hein.
C'est Israël.
En bas de la bande de Gaza, c'est Rafah. Et les Égyptiens ne veulent absolument pas faire passer les Palestiniens. Pourquoi ?
Ils ne veulent pas de cette immigration.
Alors pourquoi ? D'abord, c'est une immigration dans un pays qui est très pauvre et très endetté. Hein, l'Égypte qui a des gros problèmes, mais c'est parce qu'avant tout, le Hamas est une organisation qui est née des frères musulmans.
Voilà. Et les frères musulmans ont donné tout ce qui était tout ce qui est extrême.
Les frères musulmans étaient au pouvoir très très épisodiquement en Égypte avec Al-Morsi. Quand il y a eu des élections après le printemps égyptien, l'armée a pris le pouvoir. J'en ai discuté récemment avec une collègue qui travaille sur l'Égypte et qui me disait, mais attendez, nous on ne comprend pas ce qui se passe, nous les Occidentaux. Les Égyptiens, ils adorent leur armée. C'est des États. Et pour eux, l'armée, dans des États pauvres, bon, l'éducation chez nous, c'est important. Hein. La sécurité sociale, tout ça, on a des facteurs qui sont importants pour nous. Dans des pays pauvres, c'est l'armée.
Oui.
C'est le ciment de la nation. Donc, quand Al-Sisi prend le pouvoir, nous, on dit, c'est une dictature qui s'installe. Salopard de militaires encore au pouvoir, etc. Pour l'Égyptien de la rue, pour la plupart des Égyptiens, c'est finalement une bonne chose. Parce que Morsi, c'est quand même les frères musulmans. Et les frères musulmans, c'est la Oumma, pour faire simple. Or, le Hamas est issu des frères musulmans. Donc, le gouvernement égyptien ne veut pas des Palestiniens. Mais, entre parenthèses, les autres non plus. Quand on voit ce qui s'est passé en Jordanie, quand on voit ce qui s'est passé au Liban, en Syrie, ils n'arrêtent pas de se... Alors évidemment, on va dire que les Palestiniens ne sont pas sympas, ils pourraient faire un effort, ils pourraient devenir Jordaniens, ils pourraient devenir Syriens, Libanais, etc. En Jordanie, on leur a proposé la carte d'identité, etc. Tout de suite, ils ont refusé. Parce que, évidemment, ils voulaient retourner chez eux. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas les méchants et les bons, quoi. C'est ça qui est compliqué.
Donc, aujourd'hui, là,
quelle va être la situation ?
Alors, l'Iran, c'est peut-être le seul gagnant actuel de la situation. Peut-être. Moi, je pensais pas que l'Iran interviendrait militairement. Je vous j'étais surpris. Enfin, ils sont intervenus. Ils ont envoyé une cacahuète. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ils ont envoyé des cacahuètes sur deux ou trois endroits, notamment une base militaire dans le sud du Sinaï. Histoire de dire, on va faire péter le truc pour que ça passe à la télé, que ça se voit, que ça fasse boum. Bon, ça fait plus ou moins boum à cet endroit-là. Ça fait boum par ailleurs. Mais c'était histoire de riposter contre l'assassinat, de l'exécution de sept généraux quand même, dans une annexe de l'ambassade de Damas. C'était quand même balèze. Hein. Donc il fallait bien qu'ils réagissent. Moi je pensais qu'ils allaient réagir avec le Hezbollah, mais bon, ils ont voulu montrer que... Voilà. Mais ce qui est extraordinaire avec l'Iran, c'est que c'est un pays... L'Iran, c'est quand même un pays... C'est une grande civilisation. Vous avez parlé des femmes qui jouent un rôle énorme, qui sont hyper... éduqué.
Oui.
C'est le pays où il y a le plus d'universitaires, de gens qui font des études, des femmes qui font des études dans le monde musulman, de très loin. Quand on voit les chiffres au Maroc, par exemple, c'est aberrant. Hein. Vous avez une fille sur deux au Maroc qui ne va pas à l'école. À l'école primaire. Hein. Pour voir un peu ce que c'est aujourd'hui que l'arriération au niveau éducatif dans certains pays musulmans. Arabo-musulmans, pardon. Arabo-musulmans. Très précis. Par contre, pas du tout la Perse, pas du tout l'Iran. Et puis, vous avez ces femmes qui luttent Vous avez cette grande civilisation. C'est même incroyable. L'Iran devrait être notre allié. C'est un pays moderne. Je veux dire, quand on vire les mollahs, enfin, quand on met les mollahs de côté...
Ils veulent retourner au temps du chat.
Au Moyen-Âge, vous êtes gentil.
Mais les jeunes veulent retourner au temps du chat d'Iran.
Disons que qu'est-ce que ça va donner ? Il est possible que l'Iran redevienne une république classique, c'est bien possible à terme.
Mais je vais vous dire, j'étais en Égypte l'année où Sadat a été tué. Et déjà à l'époque, il y avait les frères musulmans à l'époque. eh bien, ça a découlé tout ce qui était... les frères musulmans, à l'origine, c'était bien, mais ça a découlé de ça tout ce qui est extrême. Parce que c'est une branche des frères musulmans qui ont créé les GI et tout ça.
Pour vous répondre, le problème, c'est pour nous occidentaux, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on ne parle pas arabe. On ne lit pas l'arabe. Moi, je connais pas mal de gens dans la géopolitique, pas du tout.
Ah bon?
Non, mais c'est un problème. Eux, ils apprennent l'anglais, le français. Nous, on
rapidement.
Ils s'en sortent. Alors, si vous voulez, la question des frères musulmans, c'est une réforme.
Oui.
Du monde musulman qui est colonisé. Dans les années 1920, vous avez un prédicateur qui s'appelle Katoub, qui écrit des textes, qui dit, voilà, il faut qu'on réforme l'islam, mais pas dans le sens où nous, Européens, Occidentaux, on comprend réforme. Nous, réforme, c'est amélioration.
Oui.
Vers une modernité, etc.
L'interprétation. Voilà. C'est une interprétation que nous, on en fait. C'est pas eux.
Alors que pour les frères musulmans, c'est le retour à la littéralité du texte.
Voilà.
Mais aussi, contrairement aux salafistes et contrairement à ce qu'on appelle les quiétistes, ceux qui lisent le texte un petit peu comme les ultra-orthodoxes juifs qui lisent le texte et qui s'en tiennent au texte, on a ça chez les évangélistes chrétiens aussi, ce sont des gens qui considèrent que le texte est fondamental, mais il y a différentes attitudes, parce qu'un salafiste, par exemple, il cherchera à évangéliser, si je peux me permettre l'expression mal placée, à évangéliser les gens, mais il n'a pas de parti pris hégémonique. Et puis vous avez le wahhabisme, par exemple, de l'Arabie Saoudite, qui était vraiment très, très influent. À partir de 79, alors ce qui est très curieux, c'est que l'Iran est chiite, donc ce sont des ennemis, ils sont en lutte mortelle contre les sunnites, contre la Oumma, et pourtant c'est ce mouvement-là qui va créer, c'est le wahhabisme qui crée finalement l'Iran chiite. C'est très curieux.
Oui.
Et qui fait des mollahs, qui met les mollahs au pouvoir. Avec l'aide de la gauche européenne, quand même le dire.
Oui.
Avec l'aide, mais vraiment active, de la gauche européenne et notamment française.
Oui.
Qui a cru que ça allait être la démocratie, etc. Ça allait être super.
Oui.
On a vu ce que ça a donné, ils ont tous été liquidés. Mais bon, voilà. Donc voilà, on a là un pays quand même. Qui ne pourra pas rester un État terroriste si longtemps.
Je voulais revenir à cette situation qui paraît...
Juste une chose, pardon, avant que tu te donnes la parole, je te coupe, excuse-moi, il a fait une heure et demie. Je ne veux pas abuser.
Je voulais revenir justement à
l'intéressant. On est pris dans le débat, je le
vois. Je voulais revenir à cette situation.
Alors, Colette.
Complètement inexplicable entre la situation palestinienne et la situation israélienne, qui ressemble... un tout petit état entre les problèmes entre Hutu et Hutsi qui arrivent plus ou moins à se pardonner, entre guillemets. Quel espoir y a-t-il finalement pour qu'il y ait un retour à une entente, entre guillemets, israélo-palestinienne? Est-ce qu'il y a un espoir?
Alors, moi je vais être optimiste. Je ne sais pas si c'est à court terme ou à moyen terme. Je vais être plutôt optimiste parce que je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir a priori. Quand en 1985, on est en pleine fin de guerre froide, en 85 est élu un nouveau secrétaire général du Parti communiste russe, soviétique. Je suis comme De Gaulle, je dis les Russes. Je suis en train de relire les mémoires d'espoir de Gaulle, qui sont absolument passionnants. Et il parle toujours des Russes, il ne parle jamais des soviétiques. C'est très drôle.
Oui.
C'est très visionnaire, en fait.
Oui.
Il avait bien compris la permanence de la Russie et que le communisme était un moment dans l'histoire. Et bon, à notre échelle, évidemment. Alors pour te répondre, Colette, en 85, il y a deux candidats au bureau politique pour prendre la place de Tchernenko, qui était un motivateur. Donc on essaie de prendre deux jeunes, les mecs avaient 50 balais, quelque chose comme ça. Et il y a un réformateur qui s'appelle, manque de peau pour lui, il s'appelle Romanov. Et puis il y a l'élève, le disciple d'Andropov. Andropov, c'était KGB. Hein. Il s'appelle Gorbatchev.
Oui.
Élection, bureau politique, Gorbatchev élu. Tout le monde se dit, bon, alors les criminologues qui disent, bah ouais, Gorbatchev, bon, c'est pas le bon cheval, on est mal barré. Quatre ans plus tard, qui est-ce qui fait tomber le mur? Gorbatchev.
Oui.
Reagan.
Oui.
Qui faisait des blagues anticommunistes au micro continuellement, etc. Le cowboy d'Hollywood. Là. Donc vraiment pas les mecs capables normalement de trouver une solution au problème. Bon, alors on peut réfléchir comme ça. Dans l'histoire, il y a des cas comme ça très curieux où les bonnes personnes ne sont pas là. Ceux qui les modérés, ceux qui réfléchissent, etc. Qui sont prêts à faire un pas vers l'autre, compromis, etc. En général, ils se font liquider. Et en fait, on a des gens improbables qui trouvent des solutions. Alors moi, je pense à ça. Voilà. Je me dis, après tout, il y aura peut-être deux types, des types comme ça.
Alors, pour 2020, la création de l'État palestinien, ce serait la solution. Pour lui, il a dit ça sur France Inter un matin, ce serait la seule solution.
Alors, je soupçonne M. de Villepin de il va bien se présenter aux élections politiques. Et donc, il se place au gaullisme. Alors,
mais par contre,
formidable. Oui, allez-y.
Moi, c'était pour l'histoire des autres, le Golfe, le Moyen-Orient, qui ne participent pas, soi-disant, à aider les Palestiniens. Ils sont bloqués par les Américains quand même.
Bon, oui.
On le sait, parce que l'aviation, c'est Qatar, l'Américain.
Bien sûr, les Émirats.
La flotte, la 7e flotte navale, elle est à Bahreïn, et l'armée de terre, et en Saoudi. On a aussi les Anglais à Oman, les Français à Abu Dhabi, avec l'aviation. Et les Américains sont contents de vendre des armes à ces pays-là pour se défendre. Il y a le Yémen qui est en guerre avec la Saoudie et tous les autres. Donc, les Américains bloquent tout ça, de toute façon.
Bah, disons que
ils n'ont pas intérêt à bouger le petit
doigt. Absolument, je suis absolument d'accord avec vous.
Donc, faudrait, ça, je trouve, c'est pas assez en...
Alors, c'est parce que la conférence s'appelle, j'aurais dû le préciser, le conflit israélo-palestinien.
Okay.
J'ai choisi exprès pour justement, parce que le problème c'est la densité. Quoi.
Ouais.
Mais vous avez absolument raison, dans le cadre d'un conflit, enfin, de la poudrière du Proche-Orient, vous avez parfaitement raison. Et les Américains, ils colmatent, c'est ce qu'ils font.
C'est ça, exactement.
Et l'Iran, d'ailleurs, est en train d'installer une marine depuis plusieurs années, justement, pour bloquer. Le détroit de Torah, le golfe d'Aden, parce que ils veulent se sortir un peu. On est dans le même problème qu'avec la Chine. La Chine, la 7e flotte américaine, elle est dans le détroit de Taïwan. Eh ouais. Et ça, c'est parce que l'Amérique se pense comme une thalassocratie depuis le départ, et qu'elle a 7 flottes, et je dirais même 8, parce qu'il y en a 8, il y en a une qui est virtuelle. Il y a une cyberflotte. Mais qui sont présents partout, bien sûr. Et vous avez raison, il y a un blocage, absolument. Alors après, si les Américains ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est la... J'ai oublié une conférence que je vais faire, justement, après, sur le monde de demain.
Oui.
Qu'est-ce qui va changer? Et, s'ils ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe? La nature a horreur du vide, hein. S'il n'y a pas les Américains, admettons que les Américains se retirent, c'est le désordre total. Parce qu'il faut quelqu'un qui tienne le truc. Alors, est-ce que ça peut être l'Iran?
Il faut toujours aller au
Chine. Les Russes, ça ne les intéresse pas. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est leur port et puis qu'on leur foute la paix pour pouvoir éventuellement bousiller l'Ukraine. Mais pour prendre l'Ukraine, bon. Selon leur représentation, ce que j'expliquais au départ, hein, qu'il faut comprendre. Même si on n'est pas d'accord, il faut comprendre, c'est important, fondamental. Mais voilà, mais vous avez raison. Là, il y a un verrouillage. Et d'ailleurs, les Américains ne sont pas fous. Ils font profil bas. Ils ne sont pas là en disant on est les chefs, etc. Ils sont...
L'Ukraine est le berceau de la Russie. Il faut bien le savoir. L'Ukraine est le berceau de la Russie.
Mais bien entendu.
Et c'est pour ça qu'ils veulent reprendre une partie.
Ils veulent recréer la grande Russie.
C'est un autre débat. On finit sur Israël.
Voilà. Il me semble que dans les années 95-96, on a été assez proche de la création d'un État palestinien.
Ah, mais oui.
Pourquoi ça a échoué? Je ne sais pas pourquoi.
Ça a échoué parce qu'on avait, on a, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est qu'il y a eu des principes, il y a eu des accords sur des principes. Mais les modalités ne se sont pas mises en place. On a un problème avec le Kosovo à l'heure actuelle, on a un problème avec la Bosnie-Herzégovine. On n'a pas mis en place des principes qui pouvaient permettre de vivre ensemble et de passer des compromis. Parce qu'un compromis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte que ce que je demande,
ça soit réduit
50%. C'est tout.
Israël.
Merci.
Merci. Merci.